Bonjour à tous, bienvenue à ce 78e épisode du podcast Geeks and Com. Je suis très content de retrouver le groupe habituel, Kevin, Marc et Mel. Salut.
Bonjour.
Content
Kevin,
de
il
vous
veut pas
voir.
parler, lui, il dit pas bonjour, il s'en fout.
Il fait un dog face.
Oh là là.
C'est cute en titi.
C'est Kevin.
C'est le fun parce qu'on va pouvoir commencer l'année en parlant des jeux qu'on a joués entre le dernier podcast et pendant la période des fêtes.
Oui.
Évidemment, moi, j'ai moins eu le temps parce que j'ai eu une petite fille au début de l'année, le 3 janvier.
La
Alors,
future rédactrice
j'ai été
en chef.
occupé. Oui, oui, c'est ça. J'ai été occupé
Changer la couche simulator.
Ah ouais, ça, j'en ai fait en titi, là. Ben, c'est surtout, c'est beaucoup aussi s'occuper de
Ben
notre
oui.
autre qui est 18 mois parce que ma blonde ne peut pas soulever après une pré-opération. Tu ne peux pas vraiment lever l'enfant pendant 6 semaines. Fait que c'est moi qui fais tout le reste avec lui. Alors,
À 18 mois,
on a
ça
chacun
commence
un
à être
enfant dans les
18
mains,
mois,
c'est
ça
pas
commence à
pire.
être pesant aussi. Ça commence à être un petit
Oui,
poids
ça
là.
commence. T'as raison. T'as raison. C'est le fun parce qu'il y a eu des belles sorties, il y a des bons jeux qu'on a pu jouer, on a eu aussi du backlog un peu. Je vais commencer, si vous permettez, pour faire le retour sur ma semaine, puis je vais te laisser partir le jingle. Excellent. Alors, je l'attendais parce que j'ai joué à un Like a Dragon lors du dernier épisode. Je
C'est vrai,
parlais
ça.
de Like a Dragon, The Man Who Erased His Name. Je peux pas croire qu'un mois plus tard, je joue à un autre Like a Dragon, mais c'est exactement ça. Ils en ont sorti deux back-à-back. Like a Dragon Infinite Wealth, qui est là, qui est comme la vraie suite, le huitième jeu, dans le fond, de la série principale, qui nous remet dans la peau d'Ichiban Kazuka, qu'on a découvert dans Like a Dragon, donc Yakuza 7, le dernier opus principal, qui est alors, il est de retour. Évidemment, on suit son histoire et un peu. Spoiler alert, mais on fait une petite intro qui explique rapidement ce qui est arrivé dans le dernier. Puis tu vis avec les conséquences. Dans le fond, les deux plus grosses organisations de Yakuza ont été dissoutes à la fin du dernier jeu. Et puis Ichiban, il vit un peu avec les conséquences de ça. Il travaille pour une firme de recrutement ou de conseil pour essayer de placer les gens dans des emplois. Puis il se trouve à ce qu'il tombe souvent sur des ex-Yakuza qui sont retombés dans la vie normale. Tout d'un coup, il y a 30 000 Yakuza qui sont de retour dans les rues sans qui doivent retourner à leur vie, à une vie régulière, alors que toute leur vie, ça a été, ou la majorité des dernières années, ça a été des Yakuza. Alors, c'est une réalité qui est super intéressante à suivre puis à découvrir. Fait que on voit un peu Ichiban, qu'est-ce qu'il fait pour les replacer. Il y a un peu une histoire de date avec Sao-chan qu'on avait vu dans le dernier jeu aussi. Alors, intro super intéressante. Je suis vraiment curieux de voir où est-ce qu'on s'en va. J'ai pas pu jouer plus que ça parce qu'on l'a reçu la semaine dernière. Mais là, on est de retour avec des combats tour à tour. C'est un peu plus dynamique, par contre. Il y a des changements versus Yakuza 7. Alors, j'aime bien où ça s'en va. J'ai hâte de voir. Je sais qu'on sait déjà que Kiryu va être là aussi. Alors, ça va être le fun d'avoir les deux protagonistes principaux de la série ensemble, puis voir comment ils vont travailler ensemble, puis où ça va les amener, là, cette histoire qui est toujours folle, puis moi qui me fait toujours très rire, là. Il y a vraiment des moments. Il y a toujours des moments super drôles. Je trouve que l'écriture chez Ryuga Gotoku, là, le studio qui est partenaire avec Sega, est vraiment excellent. Ils sortent des affaires, là. Puis je trouve que même l'humour a bien été adapté pour l'Amérique du Nord aussi. Alors, c'est le fun de voir le studio continuer de réussir puis que le jeu continue d'évoluer. Niveau graphique, là, malheureusement, c'est le même engin. Alors, il n'y a pas eu d'évolution pour les consoles actuelles.
Il est quand même
Alors,
beau, par exemple. Niveau lumière, peut-être moins de modélisation, mais niveau environnement,
Ouais, il
lumière.
passe bien. Les coupes de cheveux, je suis toujours impressionné,
Oui.
même si ça ne bouge pas beaucoup, là, t'sais, il n'y a pas beaucoup de dynamisme, là, mais les expressions faciales sont quand même pas pires. Mais je trouve qu'il y a de la job à faire. Mais c'est sûr que ces jeux-là, selon moi, là, on parle beaucoup des rumeurs d'une prochaine Nintendo Switch. Pour moi, ils vont tous sortir
Ouais.
pas longtemps après la sortie de la Nintendo Switch, la Switch 2 sur la nouvelle console, parce que je veux dire, ça ne doit pas tirer tant de jus. Puis cette nouvelle console-là est supposée avoir la puissance
Non, puis moi, je suis
des
content parce
PS4, Xbox
que,
One
comme
au
tu dis,
moins.
c'est une série qui me le mérite de, si vous l'avez jamais découvert, c'est une série qu'il faut découvrir. D'ailleurs, tous les opus sont sur le Game Pass. Si vous voulez jouer, donc c'est une bonne manière à petit prix d'accéder à tous les jeux. Mais ils ont annoncé il y a à peine 24 heures que ben, le jeu a battu tous les records de la franchise sur Steam, sur PC. Donc, ils sont jamais. Ils ont été à plus de 46 000 joueurs simultanés sur un jeu comme Like a Dragon. C'est énorme, là. En simultané, c'est quand même assez gros. Donc, le dernier record, pour vous dire, est à 16 000. Donc, quand même battu de beaucoup. Puis, pour ceux qui connaissent pas la série, ben, dites-vous que c'est 8 jeux en un. Parce que les développeurs s'amusent un peu trop là. Je sais que dans celui-ci, je sais pas si t'es rendu là en tour, mais j'ai vu des vidéos qui expliquaient que y avait une sorte d'Animal Crossing dans le jeu avec ta propre.
J'ai pas joué encore.
Ben, il semblerait que t'as vraiment un Animal Crossing quasiment complet dans le jeu. À part.
Il y a toujours, les arcades où est-ce qu'il y a plein de jeux de Sega. Alors c'est fun, c'est toujours une bonne idée. Puis tu te retrouves toujours dans des situations là qui a pas d'allure. La scène où est-ce qu'il demande à la fille du groupe là, d'aller en date, là, j'ai tellement ri. Là, il est tellement excité. Puis, en tout cas, je recommande vraiment fortement aux gens de découvrir cette série-là. Peut-être, vous pouvez commencer par Like a Dragon, le dernier, celui juste avant, parce que c'est l'introduction, c'est le premier jeu d'Ichiban. Alors, ça peut être une bonne façon de commencer. Mais je sais que si c'est le jeu le plus populaire, ça veut dire qu'il y a beaucoup de monde qui commence avec celui-là. Puis il y a un gros background quand même à connaître, selon moi, avant. Fait que je recommande quand même, même si c'est lui qui a les meilleures critiques, là, j'ai vu que ce qui est sorti, là, c'est que Infinite Wealth, c'est proche de 90% sur Metacritic et Open Critique.
Ouais, tu vois, on est encore à 89 en ce moment.
Okay. Ah, mais c'est ça, c'est solide. C'est le meilleur de la série, selon ces critiques-là. Si vous pouvez, tu sais, surtout qui est disponible, à ma connaissance, même sur PS Plus ou PS Extra, là, un des deux, t'es capable de l'avoir aussi, le Like a Dragon, le dernier jeu, avant. Allez-y, c'est le même moteur graphique. Il y a peut-être juste la jouabilité qui est légèrement différente, mais définitivement, là, pour ceux qui veulent se lancer, moi, je le recommande d'aller avec celui juste avant. Voilà pour Like a Dragon Infinite Wealth. Sinon, moi et Mel, on a joué à Another Code Recollection, qui est dans le fond une compilation de deux jeux qui étaient sortis sur Wii et DS. Si je ne me trompe pas, à l'époque. Moi, je n'ai pas joué aux versions originales. Toi, Mel, je savais que tu avais joué à Trace Memory, qui s'appelait comme ça, le jeu à l'époque sur DS. Mel, tu es en mute.
À Trace Memory sur DS, qui est en fait le premier des deux jeux. Donc, l'introduction de l'histoire de Ashley Robbins. Cette introduction-là, c'était intéressant dans le temps aussi parce que c'est dans le temps où la DS explorait les possibilités de l'écran tactile. Mmh. Fait que, tu sais, c'est un jeu où il y a beaucoup d'exploration, mais beaucoup de puzzles à faire aussi. Puis, cette petite fille-là, elle a 13 ans, puis elle se retrouve sur une île pour aller chercher retrouver son père qu'elle n'a pas vu depuis 10 ans parce qu'il est arrivé un gros accident. Sa mère est décédée il y a 10 ans, puis lui, il s'est comme fait passer pour mort. Fait qu'elle était convaincue que son père il était mort en même temps que sa mère, puis elle a été élevée par sa tante. Donc, il y a quand même un genre de bagage émotionnel aussi dans ce jeu-là qui est intéressant à découvrir. Puis, en se retrouvant sur l'île, on arrive dans un gros manoir, puis le manoir de la famille Edward. En parallèle à ça, on va essayer de découvrir un peu c'est qui cette famille-là qui habitait là, puis qu'est-ce qui s'est passé de leur côté aussi, parce que rapidement, au début du jeu, Ashley a fait la rencontre d'un fantôme qui s'appelle D. D, la lettre. Puis lui, dans le fond, ce qu'il veut, c'est recouvrer sa mémoire à lui, savoir ce qui s'est passé dans sa vie. Donc, en parallèle que Ashley, elle cherche son père, parce qu'évidemment, elle arrive au manoir, puis le manoir, il est vide. Son père, il n'est pas là. Fait que dans le fond, elle va parcourir toutes les pièces du manoir pour essayer de le retrouver. Fait qu'en parallèle à ça, notre petit fantôme, il va nous aider, parce que lui, il habite le manoir, fait qu'il connaît un peu la place. Puis c'est vraiment, c'est du point et cliqué. C'est une aventure classique. Pas très difficile non plus, j'ai trouvé. Puis même que la version Switch, j'ai l'impression qu'ils l'ont fait encore plus facile que dans le temps. Mais là, j'y vais vraiment de mémoire. Par contre, sur Switch, il est beaucoup plus beau. On est plus proche aussi de notre héroïne. Les animations sont vraiment jolies. Puis cette collection-là a deux jeux. Tu sais, Anthony, ça, tu les as fait les deux. Puis le deuxième jeu se passe quelques années, 2 ans plus tard. où on se retrouve dans un nouvel environnement, on s'en va dans un camping, donc un lieu de villégiature, je pourrais dire quasiment, puis dans un village là, en forêt. Puis les deux histoires s'imbriquent quand même bien, ils ont fait quand même le lien entre les deux, parce qu'évidemment on suit la même héroïne, mais qui va encore une fois essayer de trouver des renseignements sur sa mère, savoir un peu sa mère, où elle travaillait, puis les circonstances de son décès. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Parce qu'évidemment, ce qu'on lui a dit, c'était pas tout à fait la vérité. Fait que Anthony, je sais pas comment tu as aimé ton expérience. Moi, j'ai aimé ça, mais j'ai trouvé ça vraiment facile. J'ai trouvé que c'était comme un peu enfant-ado, là, tu sais.
Oui, je suis d'accord. Je me suis senti quand même investi au personnage. C'est pas un jeu qui est particulièrement long. Je pense que tu fais les deux jeux à peu près 15 heures au total pour faire les deux.
Ah ouais, maximum.
Environ,
ouais.
Le maximum. Puis, mais j'ai trouvé que j'ai quand même été investi dans apprendre qu'est-ce qui s'était passé avec Ashley, sa famille. Un peu comme. Puis même le jeu avec les mémoires, le côté science-fiction un peu, le fait que. Ouais, toute l'histoire. J'ai trouvé que le contexte était bien raconté, le storytelling était là. Mais comme tu dis, il y a eu beaucoup de changements de la version Wii puis DS. Puis là, ben, les puzzles, définitivement, selon ce que je voyais, parce que j'ai regardé beaucoup de vidéos du jeu avant, les puzzles, c'est pas les mêmes, ils sont plus faciles. L'environnement aussi, c'est intéressant parce que c'est plus en 3D. Fait que tu vois vraiment, tout est. Avant, c'était plus comme des scènes, tu passais d'une scène à l'autre. Des fois, tu te déplaçais, mais juste comme à l'horizontale. Fait que juste comme latéralement. Versus là, tu as vraiment un monde en 3D complet. Fait que j'ai aimé qu'ils donnent la vie à ce jeu-là, qu'ils donnent une chance, qu'ils osent même faire des changements au niveau de l'histoire. Je regardais la fin du jeu, c'est pas du tout la même fin sur la version Wii que sur la version Switch. Ben d'ailleurs, le deuxième jeu n'est jamais sorti en Amérique du Nord, il est sorti en Europe et au Japon, mais jamais ici. Fait que c'était intéressant de voir que Arc Systems, qui sont ceux qui ont repris contrôle de studio de cette franchise-là, qui appartenait à un studio, là, j'ai pas le nom en tête, mais le studio, je pense, c'est Singe, c'est un studio qui est mort, oui. Malheureusement. Fait que Arc Systems ont repris. Oui, vas-y, man.
Ils ont fait faillite, c'est ça que je faisais. Exact. Puis, c'est drôle parce que dans le temps des fêtes, j'ai joué à un jeu qui s'appelle Again, A Visual Novel Crime Scene, quelque chose de même. Puis c'est Scene qui l'ont fait aussi. Puis j'ai des jeux de eux sur DS. Fait que j'ai vu des liens, j'ai même vu un clin d'œil à Hotel Dusk dans le premier jeu. Fait que les gens qui connaissent ce que Scene a fait comme jeu vont se retrouver. Moi, j'ai trouvé ça mignon, mais c'est sûr que si tu n'as pas joué et que tu ne les connais pas, c'est pas grave. Là, ça change absolument rien. C'est juste un petit clin d'œil que j'ai trouvé le fun d'avoir.
Mais j'ai aimé que Arc System Works ont osé comme se réapproprier l'histoire puis faire des changements puis vraiment d'aller plus côté fiction selon ce que j'ai vu des vidéos de la première version. Alors, ça se tient très bien, malgré les changements quand même majeurs qu'ils ont fait. Là, l'histoire se tient très bien. Les personnages sont beaucoup plus beaux. Je trouve que Ashley, elle a comme un côté un peu... je trouve qu'elle a l'air tirée d'un manga japonais, genre avec des cheveux très blancs, presque éclatés, là, brillants, les grands yeux. Même le personnage avec qui elle fait partenaire dans le deuxième jeu, il est vraiment mieux défini. Il a l'air... Je sais pas, je trouve que le réalisme est vraiment accru, là, puis c'est pas du tout le même modèle. J'ai trouvé ça le fun qu'ils ont osé comme faire des changements quand même plus risqués, puis que ça donne quand même une histoire qui se tient bien. J'ai lu là que j'ai lu beaucoup des gens qui disaient que le deuxième jeu prenait 15 à 20 heures, mais non. Ça, c'était la version Wii. La version Switch, le deuxième jeu prend peut-être... Moi, il m'a pris 2 heures peut-être environ de plus que le premier. Le premier m'a pris 6h20, fait que je dirais peut-être 8h pour le deuxième. Puis ça, c'est en trouvant toutes les messages,
les notes, commentaires,
les notes qui sont dans le jeu. Fait que c'est la personne... Les gens qui disent que ça prend 15 à 20 heures faire le deuxième jeu, c'est juste faux.
À moins qu'il ait gossé sur certains puzzles, là,
Doubler le nombre d'heures, c'est... Tu gosses pas à peu près.
Le How Long To Beat est très clair que c'est sur Wii, 15 à 20 heures. Sur Switch, c'est pas ça du tout. Là. La collection prend à peu près ça, les deux ensemble. Là. Fait que, C'est ça. Écoute, moi, je l'ai bien aimé. J'espère qu'on va quand même voir une suite. Je pense qu'elle mériterait de... Je suis content qu'il ait ressorti, puis elle mériterait d'avoir un autre... Il n'y en a pas tant que ça, des jeux point et clic avec des personnages qui sont quand même attachants, qui sont bien développés. Mm. Des personnages des héroïnes femmes, surtout, et qui ne sont pas juste des copies de d'autres héros. Là. C'est vraiment... Elle a une personnalité bien à elle. Puis l'aspect des mémoires, là, qui... pourrait vraiment être exploité encore plus là, dans un troisième jeu. Fait que j'espère que Arc System s'est approprié l'histoire pour justement en faire une suite plus intéressante. Là. Je trouvais que ça me faisait penser un peu à l'histoire des Famicom Detective Club. Là. Tu sais, Nintendo est allé chercher des vieux jeux puis les remettre à la sauce du jour. Là, puis ils ont refait ça un peu avec... c'est la même chose ici là, avec Another Code. Alors... j'espère que ça veut dire qu'il y aura un troisième de Famicom Detective Club puis un troisième Another Code parce que c'est des franchises, je pense, qui pourraient faire leur place. Là, puis qui sont, oui, un peu plus nichés, mais qu'il y a quand même un public pour une histoire mature. Puis, mais pas, c'est pas tant mature, mais un peu plus développé au niveau de l'histoire puis des personnages.
Ben, c'est le fun que Nintendo prenne ces risques-là parce que j'ai l'impression que c'est des risques pour ça parce que, comme tu dis, c'est très niché, donc il n'y a aucune garantie que les gens vont les acheter en millions et millions de copies.
Surtout en Amérique. Aussi
parce que, ouais, oui, parce que ça nous en prend, mais c'est un beau risque. Mm. C'est un risque auquel j'étais contente. Parce que justement, moi, en ayant joué la version sur DS, je suis contente de pouvoir y rejouer en version super belle, sa Switch, puis ben d'avoir oui. l'opportunité d'avoir sa suite qui n'était jamais sortie ici en plus. Là, c'est un avantage incroyable. Puis c'est un beau cadeau, je pense, que Nintendo nous a fait ou m'a fait, personnellement. C'est très le fun.
Oui, j'ai donné 7.5. Je ne sais pas combien tu avais donné de ton côté.
Mais... ah, mon Dieu, moi, j'ai donné 6.5. J'ai été vraiment okay. sévère. Ouais.
Okay. Allez, je pensais que j'avais été généreux avec mon 7.5.
En 2024, t'essaies-tu de me ressembler?
Je l'ai été. Ou...
c'est ça, qu'est-ce qui se passe? Là?
Ouais, Marc 2.0.
Mais je te comprends ouais. avec ton 6.5. Là, c'est vrai que la jouabilité, c'est pas. Les puzzles, c'est pas hallucinant.
Ben, c'est ça, les puzzles. Dans un, je trouvais que les puzzles étaient beaucoup trop faciles. Tu sais, puis moi, j'aime ce genre de jeu-là, Anthony, comme tu disais, des points et cliquer avec des casse-têtes à résoudre pour pouvoir avancer, ouvrir des coffres, ouvrir des portes, trouver des clés. Puis, tu sais, un paquet de mécanismes aussi à essayer de trouver. Moi, j'aime ça me casser le coco, j'aime ça me casser la tête, puis réfléchir, puis être contente quand je le réussis. Mais ceux-là, j'étais jamais contente quand je l'ai réussi. Parce que ben là, c'est ça. Tu sais. Je veux dire, j'avais pas de challenge ouais. personnel. Fait que c'est pour ça que j'étais comme un peu. Ugh. Puis on peut prendre des photos aussi avec notre appareil pour trouver des indices. Puis dans le premier, ils ont quand même utilisé l'appareil photo pour superposer deux photos ensemble pour les faire aligner. Ouais. Puis dans le deuxième,
même en année, il faut que tu prennes un selfie. Ailleurs.
Ouais, hey, celle-là, je l'ai cherché un petit peu plus longtemps, mais je
sais oh, ouais. Moi, je te dirais 2 minutes de plus, là, mais pas bien plus.
Ah, ben c'est ça, tu sais. Fait que, tu sais, tu cherches jamais vraiment longtemps. Tu finis non. toujours par trouver parce que la réponse est jamais super loin.
Mais dans ces jeux-là, c'est vrai comment.
Puis, on a juste, tu sais, puis justement, notre appareil photo, on peut avoir un maximum de 10 photos. Dans le deuxième, j'en ai même pas eu besoin des 10 photos, mais dans le premier jeu, oui. Puis j'étais tout le temps en train d'en effacer puis de faire du ménage. Puis j'étais comme, man, donne-moi-en 20, là, tu sais, ou illimité, au pire, je m'en fous. Tu sais, j'irai comme scroller dedans si j'en ai besoin. Mais même pas une limite de 10 photos, là, c'est con, là.
Mais c'est bizarre comment il y a une différence entre le premier puis le deuxième jeu à ce niveau-là, qu'il y a tellement, certainement plus de l'appareil dans le premier que dans le deux.
Ouais, c'est ça. Puis ils ont voulu varier un peu, tu sais, dans le jeu, il y a comme le jeu avec le bateau, il y a à peu près le genre de petit labyrinthe pour ouvrir un coffre, tu sais, ils ont racheté des petites affaires, l'horloge aussi. Ouais, c'est ça, mais pas tant. Fait que, tu sais, il n'y a pas beaucoup de variété, ils n'ont pas beaucoup utilisé les fonctionnalités. Puis c'est ça, c'est comme on reparle tout le temps aux mêmes personnes, on va aux mêmes places. Puis à un moment donné, quand il y a un lieu qu'on a vraiment fini d'explorer pour au niveau de l'histoire, on ne peut plus y aller, c'est barré. Mmh. Fait que s'il y avait un secret à trouver, justement, comme les notes qu'on cherchait, parce que notre père, au fil du jeu, nous laisse des notes pour qu'on puisse les lire. Puis c'est ça qui approfondit l'histoire. Puis le fait qu'on en sait beaucoup plus en profondeur, des tenants et aboutissants de ce qui se passe. Puis c'est plate parce qu'il y a deux notes que j'ai manquées parce que je suis sortie de la pièce. Puis au niveau scénaristique, j'avais plus le droit d'y retourner, fait que c'était bloqué, tu sais, j'étais comme j'irais pas ouais, faire le jeu pour deux notes.
Ça enrichit beaucoup le scénario en plus, là, c'est les notes qu'on parce voit.
Oui, tu sais, il donne les raisons pour lesquelles il fait le travail qu'il fait, puis les raisons pour lesquelles il est parti pendant 10 ans, les raisons, il parle de sa femme aussi, donc la mère de notre protagoniste, qui, elle veut tout savoir sur sa mère, parce qu'elle a quasiment plus de souvenirs de elle. Fait que ça enrichit le scénario au bout, puis on peut même pas avoir les notes qui nous manquent si jamais on a passé tout droit, tu sais. Fait que...
Écoute, c'est un jeu intéressant. Je pense que si vous aimez les points des clics, il y a un certain potentiel. Prime Chasse, 79,99 pour la collection, mais
c'est deux jeux en fait. Mais 15 heures.
Mais j'imagine totalement un troisième jeu avec presque une approche Professeur Layton là, avec plein de puzzles à gauche et à droite.
Là, on se casse la tête dans le professeur Layton. Ça, c'est incroyable.
Oui, exact. Alors, écoute, ça, c'est mon deuxième jeu. Puis sinon, j'ai joué. On va en parler un peu plus tard parce qu'on a une discussion à ce sujet-là. Mais Palworld, j'ai joué comme beaucoup de gens ont essayé ce jeu-là. Disponible sur Game Pass et en achat sur Steam aussi. PC Game Pass et console Game Pass.
Ouais.
J'ai joué les deux versions. Qu'est-ce que je dirais sur Palworld? Écoute, c'est sûr, comme tout le monde, premier réflexe. De un, quand tu sors de la grotte, t'as l'impression de sortir de Breath of the Wild, là, parce que t'es un personnage à moitié tout nu qui se réveille dans une grotte.
C'est cool que c'est ce que tu
retiens. C'est pas ce jeu tout nu,
c'est ce que j'allais dire, c'est cool que c'est ce que tu retiens de Breath of the Wild.
C'est ça, tu sors
tout
nu.
C'est tellement une scène iconique que tu sors d'une cave.
Oh, quand tu flottes dans les airs.
Puis là, tu regardes. Je trouvais que c'était vraiment signature.
Anthony, il aime ça. Il aime ça des jeux de tenue, c'est pour ça.
Non, moi, la première affaire que je fais, c'est que j'enlève toute l'armure dans mes persos. fait, évidemment, après ça, tu vois tout le côté qui ressemble beaucoup à Pokémon, où est-ce que tu as une sphère. Tu crées des sphères, tu crées ta base. Il y a beaucoup de crafting, ça c'est pas Pokémon, ouais. C'est un peu plus Fortnite.
Ouais, je te dirais, c'est même une copie de pour ceux qui ont joué à Ark Survival, donc le jeu dinosaure, c'est une copie conforme de la manière de d'utiliser tes créatures pour récolter des ressources.
C'est ça, puis dans le fond, c'est comme un base builder, ouais. Où est-ce que tu sors tu essaies d'aller de plus en plus loin dans le monde ouvert, et attraper des pals et non des Pokémon, les utiliser pour faire pour remplir toutes tes petites tâches dans la maison, comme des bons fermiers. Alors, tu peux les faire arroser tes plantes. Évidemment, il faut que tu ailles le Pokémon qui est... excusez-moi, le Pokémon. Le pal qui est du bon type.
Lapsus.
Qui est du bon type. Ouais. puis tu peux, ce qui est le fun aussi, c'est que tu peux jouer en multijoueur. Fait que j'ai joué avec un de mes amis, puis chacun de notre côté, on complétait notre checklist, mais on développait notre base au même endroit. Puis après ça, on est allé se faire dégommer solidement par le premier boss qui est vraiment trop puissant pour qui la courbe d'apprentissage là, est vraiment rough. La courbe de difficulté est vraiment très rough.
C'est là que tu vois que c'est un accent anticipé. Aujourd'hui, on le cachera pas, c'est un accent anticipé. Les développeurs n'ont pas fini le jeu, et y a des trucs comme ça. Tout le monde qui joue au jeu me parle de ce premier boss qui dit ok, clairement, on pensait être prêt, mais on n'était pas prêt du tout.
Tu sais, t'es full équipé, t'as une petite notice qui dit assurez-vous que vous avez bien mis à niveau vos pales, puis blablabla. Puis là, tu rentres, puis tu te fais démolir complètement.
Là, tu commences à affronter le boss, puis il perd 2 de vie à chaque fois.
C'est juste une vraie joke. Mais c'est un peu là que je me suis dit, OK, ce jeu-là, il est comme trop en accès anticipé, puis c'est correct, il est vendu comme ça. Mais quand t'entends, on a vendu 8 millions de copies, je m'étais dit, il est peut-être quand même pour finir, mais non, il faut se rappeler que c'est un jeu en accès anticipé. Il n'est pas fini, il y a encore de la job à faire. Il y a encore des petits trucs qui sont un peu, comme je dirais l'expression « janky », qui est un peu... c'est pas peaufiné dans le fond, il y a encore... la job à faire. Il y a définitivement du potentiel. J'ai eu du fun. Mais je vais attendre un peu avant d'y retourner. Je vais donner le temps de se développer puis voir si Nintendo va gagner sa cause. Mais on en reparlera plus tard. Excellent. Fait que c'est tout pour Palworld. Je vais continuer en ordre. Marc, si tu veux nous parler à propos de Justice, j'adore la série. Fait que je suis vraiment curieux de t'entendre.
Ben oui, donc il y a quelques années, on avait eu droit aux trois premiers jeux de la franchise et s'est tourné en mode trilogie pour remettre un petit peu la franchise de l'avant. Ça avait permis aussi souvent d'avoir une traduction française qui est arrivée quelques mois plus tard à la sortie du jeu, mais qui avait quand même pas mal permis à plusieurs personnes de pouvoir mettre un peu la main sur cette franchise. Mais... Et c'est une franchise qui est exceptionnelle, si vous voulez mon avis.
Tu joues en anglais à ça, tu joues pas en français.
Mais maintenant, c'est très bien traduit. C'est plus ce que c'était à l'époque quand tu pouvais avoir la traduction.
Ouais, mais on est tellement habitués, tu sais.
Ça, ça a quand même permis de démocratiser un peu le style, parce que quand tu te bloques à un seul langage, ben tu fermes la porte à plusieurs personnes. Aujourd'hui, les jeux sont traduits en plus de 30 langages, donc ça permet à un plus grand nombre de découvrir la série. Et comme son nom l'indique, eh bien, c'est les opus 4, 5 et 6 de la franchise Ace Attorney qui mettent de l'avant notamment Apollo Justice, qui est un jeune avocat, un peu comme les débuts de Phoenix Wright, qui va devoir apprendre le métier d'avocat en cours, parce que c'est bien beau étudier, mais quand on arrive sur le terrain, surtout avec les personnages qu'il va rencontrer, il va comprendre rapidement que c'est pas du tout ce qu'il avait pensé de son travail et qu'en plus de devoir faire le travail d'avocat, va sans doute falloir aussi faire le travail d'un détective privé pour résoudre un petit peu des énigmes et un petit peu par là aller chercher lui-même ses pièces à conviction pour ses procès. C'est un jeu très, très cool. Le premier, donc le troisième jeu, le quatrième jeu dans la franchise, le premier de cette trilogie-là, nous permet vraiment d'avoir la même qualité graphique qu'on avait sur la trilogie Phoenix Wright, c'est-à-dire des animations très bien faites qui ont été refaites, un polissage en 1080p très très joli. Peu importe la plateforme où vous y jouez, le jeu est très joli, c'est vraiment vraiment agréable. Là. Moi j'y joue, j'ai fait le test en fait sur la version PC, donc j'ai joué autant sur PC que sur Steam Deck, j'ai essayé les deux, ça roule très très bien partout. On reprend le même principe, c'est-à-dire qu'on va devoir justement analyser les scènes de crime, aller en cours ensuite pour défendre. Et ce qui est le fun, c'est les personnages que l'on rencontre et les histoires qui sont vraiment qui partent dans tous les sens. On n'a aucune idée de comment une histoire va se finir si vous n'avez pas déjà joué au jeu. Et c'est là que le jeu est le plus intéressant selon moi. C'est vraiment ce type de trilogie-là, c'est vraiment pour les personnes soit qui s'ennuient énormément de la franchise, ou soit qu'ils n'ont jamais joué au jeu, parce que si vous avez déjà joué au jeu et vous vous rappelez de l'histoire, c'est le même jeu. Ils n'ont pas rajouté de l'histoire. La seule différence de cette trilogie-là, c'est qu'on retrouve les différents DLC qui étaient disponibles, donc les deux épisodes spéciaux qui ont été rajoutés plus tard par la suite. Et comme je le disais, contrairement à la première trilogie, cette fois-ci, on a eu le jeu traduit dans plus de 30 langages, dont le français, l'anglais, etc., dès le début, donc pas besoin d'attendre un patch ou quoi que ce soit, c'est disponible dès maintenant. Il y a même pour le Dual Dynasty et le quatrième jeu, c'est le septième jeu, le sixième jeu, on n'arrive plus à calculer aujourd'hui. avec des cinématiques entièrement doublées. Donc, pour ceux qui ont écouté la série animée Phoenix Wright, eh bien, c'est les mêmes doubleurs français et anglais qui reprennent leurs rôles respectifs dans le jeu. Donc ça fait un petit clin d'œil vraiment, vraiment cool. Et c'est là aussi que le jeu est un petit peu plus décevant. C'est-à-dire que, outre le premier Apollo Justice, qui était vraiment entièrement 2D, donc on voit vraiment le travail fait sur les dessins, les deux autres étaient faits en 3D. On introduisait la 3D, du moins la 2.5D, entre guillemets, dans le jeu. Et là, ça frappe un petit peu plus. Tu vois qu'ils ont malheureusement pas eu l'opportunité, pas eu le temps de travailler peut-être comme la version qu'ils voulaient. Donc, c'est un petit peu amélioré, mais pas tant que ça. On voit que c'est un ancien jeu. Là. Et c'est ce qui est dommage. Je pense que c'est tout à fait normal parce qu'il aurait peut-être fallu faire un remake complet des deux autres jeux. Là. Ça aurait pas été possible. Mine de rien, les jeux se vendent bien. La première trilogie s'était bien vendue, qui avait convaincu Capcom d'emmener... le jeu qu'on n'avait jamais eu le droit, donc un peu les prequels de Phoenix Wright qui avaient juste sorti au Japon, qu'on a eu la chance. Et cette deuxième trilogie montre encore que les fans sont au rendez-vous et démontre encore plus que on veut un nouvel opus de la franchise et on espère un jour en avoir un. Parce que c'est une très belle série qui est appréciée de sa communauté et qui là maintenant, traduit en plusieurs langues, va sans doute attirer encore plus de personnes sur la franchise. Puis pour vrai, c'est avec le retour annoncé de Professeur Layton, Il y a beaucoup de gens qui espèrent que derrière cette annonce s'en cache peut-être une deuxième pour justement la franchise de Saturnay. On verra un petit peu comment ça va se dérouler, mais si vous avez aimé la première trilogie et que vous voulez la suite de l'histoire, parce que c'est une suite directe, on reprend quelques années après, ben vous allez pouvoir vivre tout ça. C'est disponible sur l'ensemble des plateformes. Puis si vous voulez en savoir un petit peu plus, ben mon test est disponible sur le site de Geeks & Com directement.
Ben, Marc, dis-moi aussi... en termes... Vas-y, man.
M'excuse, je voulais m'insérer. Ça
non, non, c'est correct.
Ce qui est le fun, c'est que les à part Apollo Justice, les deux autres jeux, ils étaient seulement disponibles en numérique avant, puis maintenant, les gens peuvent l'avoir sur cartouche ou disque, dépendamment de la version que vous prenez. Fait que c'est le fun de pouvoir
les trois jeux rentrent sur la même cartouche, pas d'installation de plus ou quoi que ce soit, donc c'est cool.
All right!
Nice. Ça, c'est très, très cool. Mais c'était quoi ta question, toi, ton côté, Anto?
Ouais, je me demandais, dans le fond, fait que le premier jeu, c'est Apollo Justice Ace Attorney, après ça, c'est Dual Destinies, puis après, c'est Spirit of Justice.
Exactement. Ça? Donc, c'est vraiment 4, okay, 5, 6.
Fait qu'il en manque encore, là, genre, me semble qu'il y avait un plus comme sur Miles Edgeworth seulement.
Oui,
puis,
DS, ouais, hein? Je l'ai.
Ouais, ben, ça, c'est des opus qu'on... c'est des opus un peu spin-off. Je sais pas si on...
parce que là, tu joues l'avocat.
Exact. Je sais pas si un jour on va les avoir, peut-être.
C'est ça.
Peut-être qu'un jour on va les avoir, mais là, je pense qu'ils ont bouclé la boucle en sortant le prequel, la trilogie originale et la suite. À voir après ce qu'ils vont faire. J'imagine qu'eux, ils attendent les résultats des ventes. Comme tout studio, comme tout gros éditeur attend le truc, mais moi, je suis toujours fan de ce type de compilation-là. Je trouve que c'est beaucoup plus fun que d'avoir un simple remaster. Que d'avoir vraiment une compilation qui boucle l'histoire complètement. Ça veut donc dire qu'aujourd'hui, avec vous prenez les deux trilogies, bien, vous avez l'histoire au complet de la franchise. Là. Et ça, c'est très, très cool.
Ouais, ça, j'avais pas réalisé que c'était déjà les jeux 3DS qui s'étaient en train de sortir dans cette compilation-là. Mais... Parce que moi, mon premier, ben, tu sais, j'avais joué au premier de la trilogie.
Ouais.
Mais je pense qu'un des premiers que j'avais joué, c'était Dual Destinies.
Il y en a beaucoup qui avaient passé. Moi, à l'époque aussi, je me rappelais, quand j'étais plus jeune, j'avais passé direct à Dual Destinies aussi. Je sais pas pourquoi, d'ailleurs. Mais c'est peut-être parce qu'on l'avait peut-être pas eu les autres avant, ou bref. T'sais, des fois en Amérique, les distributions, c'était un peu plus compliqué pour ces jeux-là.
Ah non, ils étaient sortis sur DS, les autres. Les seuls qu'on n'avait pas eu, c'est les Chronicles.
Oui, qu'on a eu là...
dans l'ancien temps.
Oui, exact, mais, qu'on a eu récemment.
Mais les trois premiers qui étaient sortis sur DS, moi, je les avais achetés, les trois.
C'est une très bonne série. Ouais. Bref, si vous ne l'avez pas découvert et que vous aimez ce genre d'histoire rocambolesque, mais que vous avez aussi du temps, hein, parce qu'au total, les trois jeux vont prendre à peu près 80 heures. Pour terminer la trilogie.
Donc... C'était beaucoup de lecture.
Oui, ben c'est des romans interactifs.
Oui, oui.
À la base, là. C'est clair, là. Il y a tellement de dialogues là-dedans.
Et sinon, ben j'ai incarné Dieu. Littéralement. J'ai incarné Dieu littéralement sur le jeu de Universe Sim. Je sais pas si vous vous rappelez de ce jeu-là. Parce que c'est il y a quelques années, il y a plusieurs années, il y a près d'une dizaine d'années maintenant. Quand le type de accès anticipé est sorti, je sais pas si vous vous rappelez, les projets prenaient énormément de temps à sortir. Il y a même des jeux qui sortaient jamais du fameux accès anticipé. Hein. On se rappelle d'ailleurs, on parlait d'Ark tout à l'heure. Ark a été genre 8 ans en accès anticipé. C'est un jeu comme celui-là aussi, c'est-à-dire que c'est un jeu d'une toute petite équipe qui a jamais eu l'impact d'avoir un gros éditeur derrière eux. Ça leur a pris 9 ans. Développer la version 1 de leur jeu qui est arrivée enfin sur PC. Ça s'appelle The Universe Sim et vous voyez des images en ce moment. C'est un jeu dans lequel vous allez incarner Dieu, c'est pour ça que je le dis. Donc c'est un God Simulator qu'on appelle. C'est des jeux qu'on a de moins en moins aujourd'hui, mais qui est vraiment cool. Donc vous incarnez vraiment votre petite colonie préhistorique qui va comme ça gravir les échelons de l'ère jusqu'à l'ère moderne d'aujourd'hui et même aller jusqu'à la colonisation de l'espace, ni plus ni moins. Et vous avez bien entendu différents éléments, différents événements qui vont survenir comme des pluies de météorites, des éclairs, plein de choses qui vont arriver qui peuvent détruire votre colonie. Et ce qui est cool, c'est que au début, bien entendu, c'est la religion entre guillemets. Donc vous intégrez la religion pour que vos petits habitants croient en vous. Plus ils croient en vous, plus vous avez des pouvoirs et plus vous pouvez les aider, par exemple, en déplaçant les ressources directement dans les constructions en cours. Etc. comme ça, donc ça va les aider à se développer. Vous choisissez bien entendu devant un très grand arbre technologique les prochaines évolutions qui vont arriver. Mais au fur et à mesure, vous pouvez décider de laisser de côté cette foi et d'aller plus du côté scientifique. Et là, ce qui veut dire que, ben oui, vous allez avoir un impact sur votre colonie, mais vous allez avoir peut-être un impact un peu plus minime, un peu plus dilué. Donc, ce qui peut arriver, il peut arriver des choses. Il y a un système démocratique, il peut avoir des élections. Et ben votre colonie peut complètement partir en couille, littéralement. Là. Donc, ça peut aller dans tous les sens. Il y a des guerres qui peuvent se déclarer parce que votre colonie peut scinder en deux, puis d'autres colonies qui s'en vont coloniser une autre partie de la planète. Puis là, ils vont décider de s'affronter directement. Vous êtes qu'un acteur, vous êtes juste là en observateur. Et si jamais vous avez été du côté scientifique, ben malheureusement, vous pouvez pas faire grand-chose parce qu'il n'y a plus personne qui croit en vous en tant qu'entité suprême. Donc c'est un jeu vraiment, vraiment cool. Si vous aimez les jeux de gestion, ben c'est clairement un jeu que vous allez aimer. Et c'est un jeu qui n'est pas vendu à très gros prix. Là, on parle d'un prix total. Là, en ce moment, il est encore en rabais aux alentours de 25$, mais hors rabais, il est à 33$. Donc, c'est pas un jeu qui est très, très dispendieux et qui peut vraiment vous emmener à plusieurs, plusieurs heures de jeu. Le jeu est entièrement traduit au niveau de l'interface dans toutes les langues. Et vous pouvez aussi y jouer un peu partout. Sur la Steam Deck, il est compatible, mais pas trop non plus parce que reste un jeu de gestion, donc c'est un peu plus difficile. Vous pouvez jouer avec le trackpad, mais c'est un peu plus difficile. Dans tous les cas, ben, c'est un jeu qui, comme je le disais, va vous permettre de vous plonger différentes heures. Je trouve que le pacing est un peu plus lent dans le sens que on a souvent tendance à devoir attendre. T'sais, vous allez utiliser le x3. Là. Dans des jeux de gestion, vous êtes habitué de pouvoir avancer le temps, mais là, si vous avancez pas le temps, vous allez trouver ça long. Vraiment, il n'y a pas assez de micro-gestion pour que c'est nécessaire de rester sur play à x1 puis attendre qu'il se passe de quoi. Là. Il faut vraiment y aller à x3, surtout au début là, pour passer de l'ère préhistorique à médiévale, etc. C'est vraiment assez long. Ça vous prend peut-être une quinzaine d'heures là, pour passer à l'âge médiéval et plus. Là. Donc,
t'avais-tu joué à Black and White, Marc?
J'avais joué à Black and White à l'époque. Mais oui, ça ressemble
c'est
à
un
ça.
Peu similaire.
C'est ouais. Un peu similaire.
Parce que moi, tu parlais, je suis Dieu, moi tout de suite, je pense au main en Black and White, puis l'ange, puis le démon.
Ben écoute, ça peut ressembler à ça. C'est un peu aussi, je sais pas si tu te rappelles, à l'époque de la Xbox 360 et du Xbox Live, il y avait un jeu qui s'appelle Dust, je crois, ou je sais pas si ça s'appelait exactement comme ça, mais c'est un god game dans lequel ben, tu jouais tout simplement une personne en 3D qui modulait la Terre autour. Ben c'est un petit peu ce principe-là, mais comme je dis, c'est des jeux qui sont... Il n'y en a pas tant que ça. Au final, on se rend compte que l'un des derniers qu'on a eu récemment, entre guillemets, c'est Spore. Je ne sais pas si vous vous rappelez de Spore, de Microsoft et de EA.
Ben oui, de EA.
Exactement. Donc, c'est un des derniers... Tu sais, il y a les Sims qui rentrent là-dedans, mais dans le sens, c'est un des derniers original qu'on a eu, mais oui, Black and White, ça en fait partie. C'est clairement une inspiration. Même chose pour, je dirais, ça ressemble beaucoup à Dungeon Keeper, à aussi le jeu sur mobile là, qui a été très, très, très populaire là, avec le un petit peu animé ou quoi que ce soit, qui est God Simulator ou quelque chose comme ça. Et ça ressemble à Roos, R-E-U-S, que vous avez peut-être joué, qui est vraiment un jeu avec des grosses créatures comme ça, qui va en avoir un deuxième d'ailleurs en 2024. Donc voilà, ben vous aurez mon test très bientôt. Je suis en train de compléter justement le test du côté Geeks&Com, donc il devrait apparaître très bientôt pour en savoir plus. Mais si vous voulez vous en intéresser, ben ça s'appelle The University, mais c'est disponible en version 1.0. Et les développeurs ont déjà annoncé que ce n'est pas parce que ça a pris 9 ans à faire la 1.0, que ça va prendre 9 ans pour ajouter du contenu. Ils ont promis qu'elle allait ajouter du contenu gratuitement dans les prochains mois à venir.
Nice, merci Marc. Ben Kev, c'est à ton tour.
Hey! Moi, j'ai joué à Prince of Persia. C'était bien bon.
All right! Mais c'est un super bon jeu.
Ben oui, ben, OK, excuse. J'ai joué à Prince of Persia. C'était super bon. Allez, les montres. mais le nouveau Prince of Persia, de Lost Crown, et non de Last Crown.
Oui.
des fois, juste une lettre peut faire une méchante différence dans un titre. Mais je sais pas pour vous, honnêtement, le jeu il est sorti, puis non seulement on ne l'attendait pas, mais il y a eu beaucoup d'ombre par rapport à ce jeu-là à cause de Prince of Persia Remake.
Ouais.
Qui, les deux ont été annoncés à la même occasion, puis il y en a un que les gens attendaient avec impatience, puis qui
c'était
s'est fait
attarder,
puis comme on dit, c'est dans ta marnoche. finalement, il y a lui qui fait comme genre, bon, ben tant mieux, ça fait en sorte que personne ne va avoir la donne sur nous autres. Ben, ça se trouve que, ben, Colin, il est bon. Fait que Prince of Persia, fait par Ubisoft. Ubisoft qui, eux aussi, ont des, un petit peu de rédemption à faire de leur côté parce que les dernières années n'ont pas été faciles. Tu sais, 2023, là, il y a eu quoi?
The Crew 2.
The Crew 2.
Avatar.
Mirage.
Quand on parle d'Avatar, on parle de le jeu qui a baissé de 20$ après deux semaines de sortie.
Alors que c'est un excellent jeu, puis j'ai aucune idée pour qu'on a sorti ça en plein mois de décembre.
Mais tout le monde le plante, je comprends pas. Moi, j'ai quand même
Non, je pense que. Je pense que c'est parce qu'il y a le mot Ubisoft derrière. Hein. C'est la même chose, Prince of Persia. Kev,
ouais, il part avec une prise.
C'est Kev, il va sans doute pouvoir le confirmer quand il a sans doute à regarder ce que ça se fait, les autres critiques ailleurs, mais. J'ai vu des mauvaises critiques de Prince of Persia, puis je regardais les arguments, puis ça méritait pas de baisser de 8 points le jeu, quoi, tu sais.
Mais tu sais, c'est quand même pas une tonne d'innovation dernièrement, on va se dire, là, pour Ubisoft.
Non.
On réutilise les assets qu'on avait, tu sais, Avatar, on peut pas cacher que c'est le moteur de Far Cry, puis ils utilisent des assets. Assassin's Creed Mirage, ben, tu sais... On revient à ce qu'on a déjà été à la base.
C'est un assassin. Là. Ouais,
c'est... Mais c'est surtout, moi, je trouve ça plate, c'est que Prince of Persia va peut-être se faire rabaisser, entre guillemets, parce que ben, c'est développé par une beaucoup plus petite équipe. Les gens ne le savent peut-être pas. Hein. C'est Ubisoft Montpellier, c'est le studio de Montpellier. Ils sont très peu nombreux. On parle d'environ 200 personnes et ça remonte à 2021. Donc, mais pour Ubisoft, ouais, mais t'sais, pour Ubisoft, c'est minuscule, 200, là, on s'en doit. C'est eux qui ont, par exemple, fait Soldats Inconnus, Mémoire de la Grande Guerre. Et qui travaille aussi sur Beyond Good and Evil 2, qui peut-être un jour sortira, je ne sais pas.
Je vais en avoir en tabarnouche des cheveux blancs, c'est ce que je veux, ça. Mais tu sais, comme tu dis, 200 personnes, c'est quand même pas mal là, pour faire un jeu, surtout dans un genre qui est vraiment hyper populaire du côté indie. Tu sais, les jeux Metroidvania, là, en dehors de Metroid Dread, t'sais, la preuve étant que même Konami avec Castlevania n'en a pas fait depuis une éternité, c'est juste pour dire. Fait, c'est un jeu qui ne nécessite pas beaucoup de ressources, qui est quand même très difficile à innover, on va se dire.
Ouais.
Ce qui fait en sorte qu'il n'y a pas beaucoup de gros studios qui veulent aller vers cette direction-là, parce que souvent, c'est trop simple, puis les ventes ne sont pas au rendez-vous. Mais ça n'empêche pas que dans les dernières années, il y a eu des excellents jeux dans le genre. On pense juste à Hollow Knight, Tony Blasphemous qui était excellent également.
Ouais, la série Ori, par exemple.
Il y en a vraiment beaucoup. Les Ori, ouais, il y en a vraiment une tonne. Mais bon, bref, que je prenais ce Prince of Persia avec absolument aucune attente, ce qui était tu sais, quand même, je pense, l'attitude à adopter. Puis j'ai été vraiment surpris. Le jeu, il est excellent. On incarne Sargon, qui n'est pas le prince de Perse. Fait que, hein, des gens partant, c'est comme « Wow, first surprise! T'es qui, toi? » Fait que Sargon, qui est un petit soldat de l'équipe Les Immortels, qui consiste à 7 soldats qui sont hyper forts, hyper courageux, qui défend la veuve et l'orphelin.
Ils sont full cool!
C'est eux autres qui mènent et qui pètent des gueules.
Eux autres, ils copient pas Pokémon.
Pas tout. Mais eux autres sont au service, par contre, du prince et de la reine de Perse. Et malheureusement, ben, les petits garçons, ils se kidnappent. Par des méchants. Puis le méchant en question, ben, c'est qui? Ben, c'est celle qui a traîné. Qui a formé notre petit soldat. Fait que là, déjà en partant, oh mon Dieu, surprise!
Pas la quête de la vengeance, c'est de rédemption.
Ben non, oui, ben... Fait que là, on...
La quête de savoir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi elle a changé de camp aussi.
Oui, qu'est-ce qui arrive, là? Pourquoi c'est une méchante, finalement? Elle est une pas ferme. Fait que elle kidnappe notre petit ami, puis nous autres, ben, on se met à courir après pour dire non, tu seras pas ça, pas vrai, m'en donnerai à la maison. Honnêtement, c'est un Metroidvania dans le plus classique genre, c'est-à-dire qu'on a notre map, on découvre la map au fil de l'aventure, on débloque un paquet de pouvoirs qui fait en sorte que notre petit soda est de plus en plus fort. Tu sais, au-delà des pouvoirs qu'on développe, qui fait en sorte qu'on a accès à évidemment d'autres endroits dans la map qu'on n'aurait pas accès auparavant. Ce qui est très cool dans Sargon, c'est ses styles de combat augmentent de façon exponentielle au fil de l'aventure. C'est-à-dire que les combos qu'on peut faire avec deviennent là, inimaginables. Ça n'a juste aucun sens à quel point on peut détruire des ennemis si on devient vraiment habile avec notre personnage. On peut faire là, des combinaisons là, de, je dirais, une vingtaine, trentaine de coups facilement, une fois qu'on vient
C'est
vraiment
le
très
coup du
bon.
jonglage, hein, avec les envoyer dans les airs,
Oh,
continuer de le frapper,
exactement.
puis
Les envoyer dans les airs, les faire
les
tomber dans le mur,
combinaisons.
les faire tomber à terre pour
Ouais.
qu'ils rebondissent. Puis, ah mon Dieu, on utilise notre arc, on utilise notre épée, parce qu'évidemment, on a plusieurs armes qu'on va utiliser. Bref, il y a une tonne de combinaisons possibles. Ce qui devient quasiment un jeu de combat, en quelque sorte, là. Aussi
Puis dans
fort
les
pratiquement qu'un
combats,
Street Fighter.
on s'entend que c'est nos talents comme joueurs qui vont faire qu'on va réussir les combats de boss, là. Tu sais,
Oui,
c'est pas le jeu qui
exactement.
va nous faire réussir.
Non, c'est un bon point. Évidemment, chaque combat de boss va pas mal utiliser le dernier pouvoir qu'on a développé là, dernièrement pour vraiment qu'on comprenne mieux les mécaniques. Mais c'est pas mal ça. Sinon, grosse surprise de la part du jeu, c'est vraiment sa durée de vie. On parle d'une vingtaine d'heures quand même pour un jeu du genre Metroidvania, ce qui est énorme. C'est rare que ça dure plus longtemps qu'une douzaine d'heures, je dirais. 10 heures, 12 heures, c'est pas mal le top. En temps normal, fait que 20 heures, c'est énorme. Et c'est pas 20 heures de backtracking. C'est pas 20 heures de je reviens où est-ce que j'étais au début, puis je développe des affaires que j'avais pas accès nécessairement. Non, non, c'est vraiment une map qui est juste gigantesque. C'est vraiment très gros. Évidemment, pour pouvoir se déplacer d'un endroit à un autre, bien, on a des points de sauvegarde, mais on a aussi des points, je dirais, de téléportation. On n'est pas assez à mon goût, par contre. Des
Non,
fois,
c'est
faut
un par
qu'on.
zone à peu près, c'est pas
C'est
beaucoup, là.
des fois deux
Ouais.
gros maximum, mais tu sais,
Ouais.
c'est vraiment très peu. Personnellement, j'aurais préféré qu'ils utilisent les arbres qui nous servent à régénérer notre santé. Bien, il aurait dû servir également à point de téléportation parce que ça, il y en a vraiment plus. Mais les points de téléportation, ça, il y en a vraiment moins, ce qui fait en sorte que des fois, quand tu sais, ah, je viens de débloquer cet endroit-là ou je viens de faire en sorte que je peux accéder maintenant à ce point-là, bien, avant de t'y rendre, parce que tu sais que le point de téléportation, il est là, il va peut-être falloir que tu marches un bon 2-3 minutes là, avant de pouvoir t'y rendre.
C'est une bonne façon de prolonger un jeu artificiellement, hein?
C'est une bonne façon de prolonger le jeu, mais je te disais que le jeu, il abuse pas de ce côté-là, heureusement, parce que sinon, effectivement, ça aurait. Disons que tout le monde aurait eu une espèce d'arrière-goût là, par rapport au jeu, mais c'est pas le cas. Une chance.
Non, puis malgré tout, je pense, même si la carte est grande, c'est quand même assez facile, puis en guillemets, pas trop long de se rendre une place à l'autre aussi, là.
Non,
Tu sais, quand tu regardes ta carte puis tu sais exactement par quel couloir passer, à un moment donné, tu y arrives quand même assez bien.
Mais par contre, tu parles de. Tu peux te déplacer d'un endroit à l'autre, puis tu peux suivre la map et tout. Il y a quand même beaucoup de liberté que le jeu te donne. Tu peux quand même aller à un endroit, puis je dirais pas progresser autant que tu le voudrais peut-être à un certain point, mais tu peux quand même aller à certains endroits, découvrir certaines choses avant de te rendre compte que, oups, OK, là, ça va être. Un point que je vais pouvoir aller plus loin une fois que j'aurai débloqué peut-être un pouvoir. Fait que là, à ce moment-là, tu t'en vas dans un autre endroit. Mais c'est pas linéaire au point où est-ce que, tu sais, personnellement, Metroid Dread était très, très, très linéaire. C'est comme tu pouvais pas aller ailleurs. C'est par là que tu t'en vas, puis merci, bonsoir. Il n'y a aucun autre chemin que tu peux prendre. Prince of Persia est un petit peu plus libre à ce niveau-là. Je le disais tantôt, très peu d'innovation qui est possible dans un Metroidvania. Par contre, Ubisoft a amené quelque chose qui fait que tous les Metroidvania à partir d'aujourd'hui doivent avoir ça à l'intérieur. Parce que c'est génial et je ne peux pas croire qu'il n'y a jamais personne qui a pensé à ça avant. C'est-à-dire que quand tu ouvres ta map, si jamais il y a un endroit où est-ce que tu sais que tu vas avoir besoin de quelque chose supplémentaire pour pouvoir passer au travers, un coffre que tu ne peux pas déverrouiller, quelque chose du genre, tu sais qu'il te manque un élément finalement. Bien, tu peux prendre une photo de cet endroit-là, puis après ça, aller juste sur la map et aller voir c'est quoi la photo, puis te rappeler, ah, c'est vrai, maintenant, ça
Ouais.
me prend, je n'ai pas de surprise à personne, mais ça me prend le double saut que je dois débloquer pour pouvoir continuer dans ce chemin-là.
Ben, à place de faire un point avec un code mystérieux qu'on va tout le temps avoir parce qu'on ne se rappelle plus pourquoi on a mis ce code-là. Là, tu sais.
Ou pire encore,
au lieu d'avoir à prendre une note dans un calepin à côté et te dire « Hey, c'est vrai, à cet endroit-là, je ne peux pas continuer. Hey, » On est en 2024, là, on va-tu genre passer à autre chose? La technologie devrait te permettre de... Fait que, y a ça dans ce jeu-là, puis c'est vraiment génial. Tu sais, peut-être, je sais pas pour toi-même, le côté négatif, c'est que tu as une certaine limite d'image que tu peux prendre. Je me suis jamais rendu à la limite, là, personnellement.
Ah, moi non plus.
Fait que, tu sais, t'en as quand même assez, mais peut-être que quelqu'un qui serait vraiment un amateur ou quelqu'un qui serait débutant là, dans ça en prendrait peut-être plus qu'il faudrait.
Ouais, mais t'as aussi les tu peux quand même identifier des points dans ton
marqueur,
ta carte. Des genres de petits marqueurs, des genres de petites pins, puis avec, il y a comme 5 ou 6 icônes différentes. Fait que tu vois si c'est une icône de personnage ou une icône de gemme, si jamais tu as un trésor. T'sais. Fait que tu peux quand même identifier certaines affaires en plus des photos. Fait que moi, j'arrivais vraiment à gérer ça. Puis la photo, une fois que j'avais résolu ce problème-là, ben j'effaçais la photo, fait qu'elle redevenait disponible après.
Oui, exactement. Tu fais en sorte que tu n'en aies plus besoin. C'est pas mal. Honnêtement, c'est pas mal ça. C'est vraiment une super belle surprise. J'ai pas encore terminé le jeu. Je suis très proche, par contre. Mais j'adore mon aventure du début jusqu'à la fin, jusqu'à maintenant. Les mondes sont super variés. Fait que ça fait penser que c'est vraiment pas monotone. Fait que ça, c'est plaisant. Les personnages que tu rencontres sont tous charismatiques, autant que ton personnage que ceux que tu vas affronter, je dirais. Au fil de l'aventure. L'histoire est correcte, là, je veux dire, mais en même temps, j'ai jamais accroché vraiment dans un Metroidvania. La grande majorité des jeux sont soit hyper cryptiques, genre Blasphemous, tu comprends absolument rien de ce qui se passe, donc l'histoire, tu t'en balances. Ou sinon, ben, des fois, il y a des jeux comme Hollow Knight, parce que là, par contre, le lore est exceptionnel, mais ce genre de jeu-là est très, très rare.
Ouais.
Prince of Persia, on est déjà habitué à peu près à quel type d'univers on va avoir droit.
Qu'est-ce que tu as pensé? Je suis curieux de t'entendre parce que la plupart des points négatifs, il n'y en a pas beaucoup, là, mais la plupart des points négatifs parlaient un peu que le jeu était très beau dans ses phases de gameplay, donc très, très beau visuellement, mais que lorsqu'on s'approchait un peu, tout ce qui était texture, modélisation, une fois les sortes de cinématiques qui étaient mises en place, c'était assez décevant. Est-ce que ça aurait été plus cool, peut-être mieux, de garder cette caméra un peu éloignée au lieu d'essayer de l'approcher, tu penses?
Ben, personnellement, j'ai pas
remarqué ça, puis je te dirais que je joue pas non plus avec mon écran à 2 pieds, ouais, pouces de ma face. Non, j'ai pas remarqué cet élément-là. Je te dirais que tu sais, tu le sens tout de suite que c'est pas tu sens que c'est un jeu qui a juste été fait par 200 personnes.
Oui.
Il y en aurait fait un petit indie.
J'aurais été correct. Mais pour vrai, tu le sens que c'est quand même une petite équipe qui a travaillé dessus. Et c'est correct aussi. Je veux dire, tu n'as pas besoin de mettre non plus une tonne de ressources
sur
un jeu de ce type-là, à mon avis, pour en faire vraiment quelque chose de très bien. Non, je trouve que la modélisation était super bien faite. C'est un style graphique qui se prête à ce genre d'interprétation-là, je dirais, là, qui peut donner l'impression que des fois, il y a des défauts ou que c'est mal terminé. Ça aide du cel shading, c'est vraiment quelque chose de très coloré. Ça peut donner libre à ce genre d'interprétation-là, mais non, j'ai pas trouvé. Si j'avais juste un point négatif à y donner, on dirait que j'ai été le seul. Moi, personnellement, la musique ne m'a pas transcendé plus que ça. La musique pendant les boss fights est quand même cool. T'sais, je veux dire, on a l'impression d'embarquer dans le combat, puis la musique elle aide à ça. Mais sinon, à l'extérieur de ça, quand on se déplace d'un endroit à un autre, j'ai l'impression qu'elle n'est vraiment pas présente du tout. Ce qui n'aide pas non plus, c'est que tu as un foutu petit oiseau qui n'arrête pas de faire du bruit quand il y a un coffre pas loin, puis il tape ses nerfs.
Oui, j'allais.
Jesus Christ! Hey, je comprends le petit oiseau, là.
Hey, puis il vire fou, là, quand il y a quelque chose pas loin, puis qu'il l'a pas trouvé.
Il veut te dire qu'il y a quelque chose de pas loin.
Puis des fois, il fait une pause, là, en disant, hey, gars, c'est là, c'est là, ton affaire.
Mais des fois aussi, l'endroit où le trésor en question, il n'est pas accessible tout de suite. Tu peux pas. Mais il vire fou tout de suite, quand même. Hey!
Il avertit d'avance. Ouais.
Je vais revenir. Faut-moi patience. Mais il fait, pour vrai, il fait vraiment beaucoup de bruit, là. Au point que des fois,
c'est peut-être pour ça que tu as trouvé qu'il n'y avait pas assez de musique.
Ben, écoute, peut-être ça. Je suis sûr que si je le désactive, le petit oiseau, il va arrêter. Puis je vais pouvoir entendre ce qui se passe en arrière-plan. Mais sinon, non, c'est pas mal le seul reproche que j'aurais à donner au jeu. Parce que pour le reste, ça fait partie des vraiment très bons dans le genre là, qui est sorti des dernières.
Donc, puis je pense que Ubisoft devrait faire de plus en plus confiance à des petites équipes à l'interne comme ça qui se créent et qui sont passionnées peut-être par un sujet X. C'est des projets comme on en parlait, Soldat Inconnu qui est excellent, Shadow of Light à l'époque aussi qu'on avait eu qui était excellent aussi, ouais. Qui était une bonne tentative, un bon truc qui sortait un peu de l'ordinaire. Et là, avec le Metroid Vanilla de Prince of Persia, je trouve qu'on devrait, Ubisoft devrait peut-être continuer d'essayer d'investir comme ça ici et là dans des projets qui semblent être plus appréciés que leur gros but, que leur gros...
C'est ça, l'affaire, c'est que tu te dis ça, puis je suis pas en désaccord. Le truc, c'est que, un, il faudrait déjà voir les ventes du Prince of Persia.
Ouais, c'est
de quoi ça va avoir
c'est
l'air.
Les ventes, ouais.
Parce que le problème, c'est que ce genre de jeu-là, habituellement, génère pas assez de revenus pour la grosseur de ton équipe. Donc, c'est vraiment très risqué, surtout sachant que tu as des actionnaires que tu dois combler là, par la suite. C'est pas évident. Mais je suis d'accord avec toi, par contre. Tu sais, ou à la limite. Reviens. Des fois, je fais juste revenir aux bases.
Ouais, ben c'est ça.
C'est comme là, ils sont revenir à la base à un Prince of Persia. Ben, écoute, ça fonctionne. Peut-être faire la même chose avec des séries que les gens aiment beaucoup. Puis comme tu dis, le donner dans les mains de gens qui sont passionnés. Tu sais, Splinter Cell, là. C'est l'éternité qu'on en attend.
Ça, ouais. Ben, c'est ça. Le Prince of Persia, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de jeu du prince de Perse. Fait que c'est le fun de le voir revenir.
Ouais,
comme tu dis, Splinter Cell, c'en est un que les gens demandent en plus. Ils le demandent à chaque année. Puis ils n'arrivent toujours pas.
Non, puis même si c'est pas le genre de jeu que les gens attendent, dans le sens que c'est pas ce que les gens attendaient d'un Prince of Persia, j'imagine, ça reste que ça veut pas dire que ça va être un mauvais jeu. Puis comme vous le dites, la licence Splinter Cell, peut-être une équipe de génie à quelque part qui va penser à un jeu qui matcherait avec la licence puis qui serait parfait. Mais qu'Ubisoft fait non, parce que Splinter Cell, c'est un jeu AAA d'action-aventure.
Ouais,
on
c'est
que,
un Ghost Recon, là, tu sais.
On se doute que le jeu a été poussé, ce Prince of Persia a été poussé après l'échec de l'annonce du remake, qui ont même retiré à l'équipe d'Ubisoft Singapour. Et on sait même pas d'ailleurs c'est rendu qui développe ce remake-là, puis on n'a pas eu de nouvelles non plus.
C'est Montréal
qui l'a récupéré.
Oui,
ils
l'ont repris. Oui, oui.
Tu te dis... C'est peut-être pas con d'essayer autre chose.
Bref, pour vrai, là, on est en janvier. Je m'attendais à rien en janvier, puis j'étais super surpris. C'est comme cool. Good game.
Non, je pense que c'est ça. Ils ont bien choisi aussi leur temps de sortie, comme tu le dis. En janvier, il n'y a pas grand-chose qui sort. C'est parfait. Là.
Ouais, ça, c'était le temps. Là.
Excellent. Merci, Kev. Eh bien, Mel, je vais te laisser continuer. T'as deux jeux super intéressants indépendants.
Oui, ça va être moins long que Kevin. Le premier, ça s'appelle...
T'es en train de dire que t'as été long, Kevin. Moi, c'est ce que je retiens, là.
Ben, puis Marc avec Apollo Justice, puis c'est ça. Puis Anthony, puis moi avec Another Code, OK? On s'est tous donné à soir. Il y a personne qui... Mais moi, c'est deux petits jeux indépendants qui faisaient partie de mon backlog et que j'étais contente de refaire justement quand on parlait de janvier, début d'année, qui était un petit peu plus relax. On s'entend... Après Prince of Persia et après The Last of Us Part 2, là. Fait que, tu sais, t'as besoin de relaxer. Puis il y en a deux. Ouais, mais il y en a deux comptes, tu sais. C'est un petit 12-15 heures relax. Puis sur Switch, là, tu sais. On s'entend qu'il y en a deux comptes, je l'ai joué à Simon Duvant, là, tu sais. Fait que j'ai joué à Lake, que j'ai découvert. Un jeu de Factor Simulator.
Ouais. Ben, j'y ai joué, moi. C'est bien, c'est un facteur sur l'internet. Moi, j'avais déjà joué à l'époque à cause de ça.
Mais c'est tellement relax, tellement bon, ce jeu-là. Puis je l'avais sur mon radar, on dirait, parce qu'à un moment donné, il était sur Game Pass, en plus. Puis j'avais hésité, puis j'y avais pas joué. Puis, my God, c'est un petit jeu qui dure 5 heures à peu près.
Ouais, c'est pas long. Je me rappelle plus combien c'est j'avais pris à l'époque, mais c'est pas long.
Parce que, tu sais, ça se passe en 2 semaines. Dans le fond, le jeu, c'est que tu joues une fille qui est une programmeuse informatique, mais dans les années 80. Puis, elle prend 2 semaines de vacances pour aller dans son village natal chez ses parents. Ça donne que ses parents sont pas là, sont partis en voyage en Floride. Fait que là, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va remplacer son père pendant ces 2 semaines de vacances-là pour livrer le courrier parce que son père est facteur. Donc, fait qu'elle reprend le truck à son père, puis chaque jour, elle fait sa tournée pendant 2 semaines. Fait que du lundi au samedi, elle fait sa petite tournée en ville, elle livre des colis, puis elle livre des lettres, puis elle jase avec le monde, puis elle reprend connaissance aussi, elle refait connaissance avec son amie d'enfance qu'elle n'avait pas vue depuis des années parce qu'elle était partie de chez elle. Fait que là, ils vont aller souper au restaurant, puis tu sais, il se passe des petites affaires au village de même, mais c'est super coolos, là, c'est vraiment mignon comme jeu, j'ai beaucoup aimé ça. Puis une raison pour laquelle j'y ai joué aussi, c'est que je me suis fait offrir le code par l'éditeur, merci beaucoup en passant, de la version de son DLC qui s'appelle Season's Greetings, Joyeuse Fête, quelque chose comme ça, qui est en fait un prequel au jeu où là, on joue son père qui fait sa petite tournée de facteur, mais dans la semaine de Noël, donc à partir du 21 décembre jusqu'au jour de l'an à peu près. Fait que là, on fait notre petite tournée, on voit tout le monde qu'on a connu, puis on envoie les cartes. On livre le courrier, on livre les boîtes, qu'on pense que c'est probablement des cadeaux de Noël, puis là, il se passe des affaires. Là, la madame qui tient la librairie, elle dit « Ah, ben là, elle dit, je vais m'en aller après le jour de l'an parce que je vais me rapprocher de ma fille parce qu'elle est enceinte. » Fait que là, tu sais, on apprend l'histoire de toutes ces personnes-là à travers la vie du facteur qui sait tout sur tout le monde au village. C'est super intéressant, c'est vraiment relax, puis c'est très zen, c'est le fun, j'ai bien aimé ça. Fait que ça aussi, jouer assis sur mon divan, sur ma Steam Deck, ça roule numéro 1. Fait que c'est vraiment très cool, c'est vraiment le fun. C'est un jeu de relaxation, honnêtement, là. Vraiment, là, c'est...
Ou un jeu de simulation, si vous êtes fan comme moi.
Ouais,
moi, j'adore livrer des colis.
Hey, ben, tu veux quasiment devenir facteur. Quand
pour vrai, oui.
Je vais partir avec les paquets Amazon. Je te connais.
Oh là là. Juste ceux qui s'en vont chez vous, Anto. Juste ceux qui s'en vont chez vous.
C'est pas les Amazon les intéressants.
Non, c'est vraiment le fun. Puis l'autre jeu que j'ai joué, c'est un autre jeu de backlog et un autre jeu qui se passe en plein hiver, en pleine tempête de neige.
Ça oui, c'était dans le mood, hein, vraiment. C'était dans le mood hiver.
Je suis dans le mood de tempête de neige. Hein, oui, je suis dans le mood hivernal, là, c'est sûr. Puis ça, c'est un jeu qui était dans mon backlog que j'avais acheté sur Xbox One. Fait qu'il était dans ma bibliothèque de jeux, mais j'y avais jamais joué. Puis, en fait, c'est pas vrai. Je l'avais commencé, je l'avais lâché. Puis là, j'ai dit non, là, je retourne dedans, je l'ai fini. Tu sais, le jeu se finit en 6 heures, là. C'est vraiment pas long. Là, j'ai joué en 2 après-midi, genre. Puis, c'est un jeu québécois développé par Parabole, le studio. Puis, en plus, c'est un jeu qui se passe au Québec, dans le nord du Québec. Puis ça, je trouve qu'on n'a pas assez des jeux faits par des développeurs d'ici, mais qui se passent ici avec... C'est nos décors, c'est nos forêts, c'est nos coutumes. Ça se passe dans le nord du Québec. Fait que là, on rentre dans les coutumes amérindiennes un peu. Puis là, il se passe des affaires bizarres. On arrive dans un village, puis on joue un gars de la ville qui arrive de Montréal, qui est détective, puis qui doit enquêter sur ce qui se passe au village parce que rapidement, au début du jeu, on se rend compte que le chef, le boss de l'entreprise minière là-bas, il a été assassiné. Fait que là, c'est essayer de trouver les circonstances de son meurtre, qui l'a tué. Puis qu'est-ce qui se passe dans ce fucking village-là qu'il n'y a plus personne là à part...
C'est vrai qu'on est tout seul.
Un vieux monsieur avec son dos qui t'attend quand
j'avoue
tu ouvres la porte.
C'est pas fou. Le
saut que j'ai fait quand je suis rentrée là. Bref. Fait que honnêtement, c'est vraiment le fun. C'est vraiment intéressant. Puis fait à noter pour les gens qui jouent en français... Le jeu est narré par notre grand Guy Nadon.
Oui.
Puis juste ça, man, ça donne des frissons parce qu'il raconte ce que tu fais. Fait que c'est comme t'as Guy Nadon qui raconte ta game. C'est malade. Ah, puis là, je sais qu'il y a le deuxième qui est sorti cet automne. Là,
oui, en octobre dernier. Puis qu'il y a d'ailleurs des très bonnes notes. Là, on parle d'une note moyenne de 8.
C'est aussi Guinadon qui le fait. Je suis passé le review. Ah. J'ai trop d'enfer.
Fait que j'espère, c'est ça. Fait que là, c'est sûr que le 1 est fini. Là. Dans mon backlog, là, c'est clairé. Là, le dossier est fermé. Fait que là, je vais pouvoir peut-être penser à me procurer le deuxième.
J'espère que tu n'attendras pas 6 ans pour jouer au deuxième.
J'avais pas le goût de le faire tout de suite après, par exemple, je vais t'avouer. Là. Je vais peut-être prendre une pause, là, mais peut-être, mettons, dans ma pause un petit peu plus tard.
Prochaine
là,
pause hivernale l'année prochaine.
Ouais, c'est ça. En décembre, dans le temps des fêtes l'année prochaine. Tu sais. Ou cet été, parce qu'il va faire 30 dehors.
Oui, c'est vrai que ça te donne l'envie de jouer à Kona en plein été. Là. Ouais.
Mais honnêtement, d'y jouer en plein mois de janvier, là, c'est... on dirait que tu rentres encore plus dedans dans ces jeux-là.
Ben oui, c'est sûr.
Parce que t'es vraiment dans l'ambiance de l'hiver québécois, parce que c'est ça qu'on vit. Fait que voilà, fait que c'est tout. C'était mes jeux de la semaine.
Excellent, merci. Merci, Mel. Ben écoutez, sans plus attendre, passons aux nouvelles. Excellent. Alors, ben écoute, malheureusement, c'est pas une très bonne période pour l'industrie du jeu vidéo parce qu'il y a beaucoup de licenciements, puis cela, je ne leur pardonne vraiment pas. Embracer Group a annoncé que 97 personnes étaient mises à la porte chez Eidos Montréal et que le développement du nouveau Deus Ex, qui est en développement depuis 2 ans, qui n'avait pas été annoncé, a été annulé. Alors, on ne verra pas la suite de la série de Adam Jensen, puis ça me fait très mal au cœur.
Ouais, on est déjà à 73% du total de l'année dernière pour le nombre de licenciements en ce début d'année, alors qu'on est le 29 janvier à l'heure où on enregistre.
On n'a même pas un mois de passé.
Microsoft n'a pas aidé non plus avec 1900, effectivement. Là. Mais tu sais que ça a fait monter le chiffre un peu plus rapidement, mais reste que ben, courage à toutes ces personnes qui perdent leur emploi, peu importe que vous soyez au Québec ou ailleurs. Ben, on espère que vous allez trouver un nouvel emploi dans votre domaine de prédilection très bientôt. Je sais qu'il y a une belle entraide envers les autres studios qui ont fait des messages sur les réseaux sociaux en disant on a une dizaine de postes d'ouverts, ça peut permettre à certains de peut-être se retrouver quelque chose ou des trucs comme ça. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur les différentes pages des studios que vous voudriez peut-être travailler pour essayer de vous remettre rapidement sur la glace.
Exact. Sinon, mais il y aura un nouveau State of Play cette semaine. J'imagine qu'au moment qu'on va sortir l'épisode, il y aura déjà eu lieu
C'est peut-être la journée même, ça va être ce soir.
Oui, exact. Donc, il y aura 15 jeux au total qui vont être présentés, dont Stellar Blade, Rise of the Ronin. Et on parle de seulement des jeux PS5 et PSVR 2, selon ce que Sony a annoncé.
Ouais.
Alors,
mais Sony a tendance à ne pas respecter ce qu'il dit. Fait que je sais pas si on peut vraiment les croire là-dessus. Là. Ben, c'est parce que des fois, ils disent les jeux juste en 2024, puis ils annoncent 3 jeux de 2025. T'es comme, c'était pas ce qu'ils nous avaient dit. Mais on se doute qu'on va avoir les dates de sortie, notamment s'ils ont mis l'enfant sur Stellar Blade et Rise of the Ronin, qui étaient attendus pour 2024. On se doute qu'on va sans doute avoir une date de sortie, ou du moins une période de sortie. Puis il y a aussi beaucoup de rumeurs qui parlent de peut-être un jeu, peut-être Hi-Fi Rush du côté de PlayStation qui débarquerait peut-être. Les fans sur PC espèrent toujours une annonce de jeu comme Bloodborne qui arriverait sur PC.
Ouais.
Ça, on ne sait pas, on verra bien. Là, mais on
Silent
sait...
Hill 2 là, qui devrait être apparemment...
Oui, ça, on devrait en entendre parler parce que Silent Hill, le remake, est censé sortir en 2024. Donc effectivement, ce serait le bon moment de parler. Et dans tous les cas, en ce début d'année, pour la fin d'année, aucun gros éditeur, même Microsoft avec sa conférence récemment, a réellement tout donné ses cartouches qui va sortir durant l'année. Le Sony n'a rien encore sur le calendrier ou presque. Même chose pour Nintendo. Microsoft, avec leur dernière conférence, ont peut-être 2-3 jeux, mais c'est tout. Donc c'est à Sony d'essayer, comme d'habitude, de peut-être, parce qu'habituellement, le State of Play de février est toujours très intéressant. C'est là qu'on en apprend le plus sur les jeux en cours.
Oui, puis tu sais, je me demandais, est-ce qu'il y en a qui se retiennent parce qu'ils ils se demandent qu'est-ce que Nintendo va faire avec la nouvelle console.
Je sais pas.
On se rumeure que un des jeux de lancement, ce serait un gros Mario. Fait que sort une console... une nouvelle console Nintendo avec un gros Mario en fin d'année, tu vas prendre beaucoup de place là, sur
C'est ça, puis souvent en plus que Nintendo fait ses annonces assez d'avance, dans le sens que souvent s'ils sortent fin d'année, ça va être à l'été sans doute qu'ils vont annoncer, ou peut-être même avant. Donc les studios se disent, ben écoute, on n'a pas de date de sortie officiellement annoncée au public, donc pourquoi pas se mouiller, on n'a pas besoin de se mouiller dans le sens que le jeu est pas prêt de toute façon, fait que on va garder notre date à l'interne, puis on verra bien si on la change de 2-3 semaines au niveau marketing, puis on verra bien ce que ça va donner, là.
Yes, voilà. Ben écoute, ça fait le tour. Sinon, on avait sorti une petite nouvelle aujourd'hui que c'est la semaine des jeux québécois sur Steam. Alors, il y a plus que 200 jeux. Alors, allez visiter, allez regarder ça. Il y a des beaux rabais sur des jeux québécois qu'on a testés, puis même d'autres qu'on n'a pas testés qui valent définitivement la peine.
Clairement. Donc, allez voir ça. On a du beau talent ici au Québec. Hein.
Voilà. Voilà. Sinon, ben écoute, on n'a pas de jeu de la semaine, mais on avait deux discussions là, qu'on va aborder dans les prochaines minutes. On ne s'étendra pas trop parce que ça fait déjà 1h30 qu'on a parti le podcast. 1h10, mais je suis super curieux de vous entendre sur les deux sujets. Marc, tu vas nous
mettre... Oui, je peux mettre la table sur Palward parce qu'on a entendu beaucoup de faux et beaucoup de vrais aussi en même temps. Donc, c'est dur un peu de trouver les vraies réponses derrière. Donc, Palward a souvent été critiqué pour être un Pokémon avec des guns. Plusieurs allaient même dire que le studio derrière, Pocket Air, qui est souvent un studio qui n'a pas terminé ses anciens projets. Hein?
Pocket Pair, excusez.
Mais qui n'a pas terminé ses derniers jeux qui étaient mis en place. On a un dirigeant qui, soi-disant, prône l'intelligence artificielle puis qui veut remplacer tous ses employés par l'intelligence artificielle, que Palward aurait pris des modèles 3D directement de Pokémon pour les mettre dans le jeu. Bref, il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites sur les réseaux sociaux. Il y a des choses qui sont pas totalement vraies. Donc, pour commencer, la première rumeur à enlever, non, Palward n'est pas une copie conforme de Pokémon. Anthony en a parlé un peu plus tôt quand il a joué. Moi, je trouve que ça ressemble beaucoup plus à un arc, plus à un jeu de survie qu'à un Pokémon pur et dur, parce qu'il n'y a pas de ligue à battre, il n'y a pas de personnage à affronter ou quoi que ce soit. Le but, c'est vraiment d'améliorer ta base avec les créatures puis d'avancer comme ça. Ce qu'on lui reproche, c'est qu'ils utilisaient en fait l'intelligence artificielle, mais il faut savoir que Palward a été développé, il a commencé son développement il y a plus de 10 ans. Ça a été dévoilé par le studio justement pour qu'on arrête de dire un peu n'importe quoi. Et je vous laisse deviner à quoi ressemblait l'intelligence artificielle d'il y a 10 ans. C'était pas très fameux. Plusieurs accusaient aussi qu'ils utilisaient l'intelligence artificielle pour faire des modèles 3D. Ben, il y a des experts en intelligence artificielle qui ont utilisé les derniers logiciels disponibles pour faire de la 3D en intelligence artificielle. Et on pourrait regarder à quoi ça ressemble. Vous verrez que on n'est pas encore rendu là. Ça va venir, mais on n'est pas encore rendu à une étape pour donner un résultat aussi beau que Palward. Et je trouve ça un peu dommage qu'on n'a pas laissé la chance aux développeurs, parce qu'on peut aimer ou non le dirigeant, le studio, peu importe, mais ça reste qu'il y a des gens qui ont travaillé dessus, qu'il y a peut-être quelqu'un qui a travaillé pendant des années sur un modèle 3D. C'est un peu plate de l'accuser qu'il a utilisé l'IA, si c'est pas vrai, avant d'avoir les preuves. Deuxième accusation, c'était au niveau justement de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans autre chose. Juste parce que le PDG de l'entreprise a déjà déclaré deux tweets dans lequel il dit « Wow, l'intelligence artificielle a vraiment avancé, c'est impressionnant. » C'est tout ce qu'il dit dans ses tweets. Je veux dire, à un moment donné, il faut peut-être arrêter d'interpréter puis arrêter de rajouter des trucs. On n'a pas de preuve que le PDG est vraiment un maniaque d'intelligence artificielle. D'ailleurs, il n'a pas voulu répondre aux questions des journalistes. Je pense que c'est la bonne chose à faire de laisser le jeu en avant-plan, puis c'est pas au studio de se mettre en avant-plan. Et la dernière petite rumeur qu'il y a eu, qui finalement, au début, on pensait réellement que c'était vrai, c'est lorsqu'un développeur, un ancien de Blizzard et de Sony, donc quand même une personne qui a un gros bagage, un développeur qui s'occupait de la 3D, des modélisations 3D chez Blizzard et chez Sony, c'est quand même une grosse pointure, a fait un stream en indiquant et en comparant les modèles 3D qu'on pourrait retrouver dans Pokémon Soleil et Lune, qu'on retrouvait sur 3DS. Et sur le jeu Palward, il remarquait que de la manière que les modèles 3D étaient construits, parce que pour ceux qui ne savent pas, un modèle 3D en jeu vidéo, c'est construit avec des petits triangles. Et que quand tu modélises, tu vas façonner un peu comme de la poterie, tu vas créer toi-même ta petite forme. Donc c'est presque impossible que deux formes soient pareilles dans l'univers. Ce serait presque tout à fait impossible, parce qu'il va pouvoir peut-être avoir un millimètre à quelque part qui n'est pas pareil que l'autre, parce qu'il ne l'a pas fait de la même façon. Donc, il a comparé un petit peu les deux modèles 3D et ils avaient les mêmes proportions. Et c'est là que vraiment ça a pris de l'ampleur que même Nintendo a fait une déclaration dans les derniers jours indiquant que ben, ils avaient bien entendu parler de ce fameux jeu. Ils l'ont jamais nommé, ça c'est très drôle. Ils ont juste dit on a entendu parler du fameux jeu et que ben, s'il y avait suite, ils allaient enquêter. On t'entend pas si jamais, mon ton.
Excusez-moi. C'est deux studios japonais en plus.
Oui.
Hein, fait que c'est sûr qu'ils
connaissent. Ben non, mais c'est, je veux dire, c'est clairement ce qu'il fait. Puis moi, ça m'a toujours fait rire parce que je pense que les fans ont forcé Nintendo à réagir parce que tout le monde dit Nintendo, vas-tu faire de quoi? Je vous rappelle que Nintendo n'a jamais coupé, par exemple, le mode officiel, non officiel Pokémon qu'il y a dans Arc, par exemple, qui te permet réellement d'avoir tous les Pokémon officiels du jeu.
Ben oui, il y avait un season de 6 sur ça.
Il y avait une décision, mais ils n'ont jamais enlevé. Le mode est toujours disponible, ils n'ont pas réussi à l'enlever. Donc, il y a plein de choses comme ça. Tu sais, ce qui va.
Parce que le mode Pokémon de Palworld, lui, il est parti.
Oui. Oui, mais ça, c'est normal en même temps.
Le créateur, il a dit qu'il avait reçu une lettre de Nintendo.
Ça, c'est un peu joué, je pense. Ça, c'est un peu joué avec le diable. Ouais, exactement. Tu le cherches un petit peu. Mais tu sais, dans tous les sens, on verra dans les prochains mois si. Parce que finalement, on a appris que. Et ça a été déclaré par la personne qui avait fait ce live stream-là, qu'il a dû un peu crop. Qui a dû un peu arranger les images pour avoir les mêmes proportions. Ce qui veut donc dire que ce n'est pas nécessairement les mêmes proportions identiques finalement. Donc, ça laisse beaucoup d'interprétations. Je pense que s'il y a réellement un problème, je pense que la poursuite serait déjà enclenchée, ce qui n'est même pas le cas. Donc, ils ont juste dit qu'elle enquêtait. Ce sera à voir, mais je serais très surpris parce que, tu sais, on en parlait avant le podcast. Il y a des jeux comme Temtem qui est une copie conforme de Pokémon dans tout son gameplay, dans toute la manière dont le jeu est construit, qui n'a jamais eu de problème. Je serais très étonné que Palworld ait des problèmes, sauf si, bien entendu, on finit par avoir des preuves qu'il y a réellement du copier-coller, ben, donc on prend un modèle d'un jeu et qu'on le met dans un autre. Ça, bien entendu, c'est illégal dans n'importe quel jeu. Donc on verra bien ce qui se passe dans les prochaines semaines, mais on trouvait ça important de faire le point puis de démêler le vrai du faux, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent sur les réseaux sociaux que finalement t'enquêtes un petit peu, puis ça prend pas du temps, hein. Ça prend 3 minutes d'enquête pour finalement voir que c'est peut-être pas tout ce qui est dit sur les réseaux sociaux, c'est peut-être pas nécessairement totalement vrai, là.
Oui, puis je pense que les gens peuvent se faire leur propre idée et aussi. Oui. Moi, dans le fond, moi je pense que de un, Nintendo, il y a un gros risque réputationnel de leur côté parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont acheté le jeu. Fait que si tout d'un coup, ils vont après puis ils essaient d'aller après le studio qui est considéré comme un plus petit studio semi-indépendant, ben là, tu te mets un peu à risque. Puis aussi, tu sais, ce que j'ai remarqué, mais moi, de mon côté, de la partie où est-ce que je trouve que c'est très, tu sais, c'est borderline, c'est certains designs de Paul, je regardais, mettons, l'évolution de Mewtwo. Je veux dire, c'est à part les couleurs qui ont changé, c'est pareil, la forme, tout.
Ouais.
Fait que c'est pas tout. Regarde, ils ont beaucoup de créatures, mais il y en a quand même plusieurs que c'est très, 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 très similaire. Fait que c'est là que je suis comme, OK, man.
C'est ça, on va voir, c'est ça, du côté de la...
Je comprends que Pokémon en a 1000 quelques, là, et je sais plus, il y en a combien de
Pokémon. Il est rendu total. Beaucoup, oui.
C'est pas si simple d'être original, mais quand même, il y en a que c'est vraiment du gros... la ligne est très mince, ouais. Je suis curieux de voir justement là, où est-ce que ça va... Si vraiment ils vont avancer en cours...
Je pense que ça va ça, juste donner un coup de pied, en fait, à Game Freak et à Nintendo et à Pokémon Company, ouais. Qui se réveillent parce que un jeu d'une trentaine de dollars fait par une équipe beaucoup plus petite que la leur... Mm-hmm. Se vend à des... Tu me disais, Anthony, avant le podcast, c'est 8 millions les derniers chiffres qu'on a. Et ça, c'est juste la version Steam. Ouais. Donc, t'es comme... À un moment donné, t'imagines-tu s'il faisait un Pokémon de cette visuellement aussi beau que Palworld, comment ça se vendrait? Ça serait incroyable.
On a toujours été d'accord là-dessus. Mais le jeu n'est pas sorti sur Switch. Hein, je suis pas sûr.
Non, je pense pas non plus. Je pense que Nintendo le refuserait. Fait que je pense que c'est pour une raison pour laquelle ils ne mettent pas
Switch. Je pense que même question puissance, je sais pas. Là,
ouais. En tout cas, c'est sûr, pas en accent anticipé parce que même les gros PC, il y a des problèmes. Là, fait que, effectivement.
Il y a un jeu qui
ne refuserait pas.
Hein?
Il y a un jeu qui prend 10 ans. Game Freak, passerait-tu 10 ans à faire un jeu, un nouveau Pokémon, alors qu'ils peuvent en pomper un ou deux ans, puis le vendre 15 millions?
Ils ont juste besoin de maintenant faire copier-coller, en plus. Bref, ils n'ont plus besoin de rien faire. Ils ont juste, j'ai une idée ouais. pour Pokémon, copier Palworld, utiliser leur modèle 3D dans votre jeu.
Ben écoute, il y a des jeux qui sont inspirés, là, tu sais, on se souvient ben, que oui. Uncharted était très inspiré des premiers Tomb Raider, après Tomb Raider est revenu inspiré de Uncharted.
Exactement.
Ce qui est moyen que...
Non, le seul cas que j'ai retrouvé dans les recherches, c'est le seul cas, c'était à l'époque un jeu qui s'appelait Mino ou Nino, qui était une copie conforme de Tetris. C'est le seul cas de copie vraiment qui a été rendu, tu sais, qu'un juge et tout, là, ça a vraiment été jusque-là, qui a été rendu, que le verdict a été coupable pour la personne qui a copié. Et c'était finalement même pas sur les mécaniques du jeu qui, selon le juge, ne pouvaient pas être copyrightées. Dans le sens, tu as le droit de copier une mécanique d'un jeu, mais c'était parce que l'image ressemblait beaucoup trop à... C'est le seul cas dans toutes les années de jeux vidéo, là. Fait que je pense que, connaissant la puissance des avocats de Nintendo, je pense que ça serait déjà parti en procès s'il y avait un problème. On a vu à la vitesse, comme tu le disais, pour retirer le mode de Pokémon du créateur. Je pense que ça aurait été plus vite, mais on, comme on dit, on n'attendra pas trop sur le sujet. Deuxième sujet, ben... C'était un peu Suicide Squad. Qu'est-ce qui se passe avec le jeu Suicide Squad qui est de Justice League? Aucun média, ni même créateur de contenu, a reçu de code avant le lancement. Le jeu est officiellement lancé aujourd'hui, devrais-je dire, officieusement, parce qu'on a appris que un peu plus tôt dans la journée, si vous n'avez pas suivi, ben que le jeu, il faut toujours être connecté à Internet. Et malheureusement, ils ont eu un gros problème, ce qui faisait en sorte que les joueurs qui avaient accès 72 heures à l'avance avec la version Deluxe ben, avaient le jeu complètement fini. Dès qu'ils se connectaient pour la première fois, donc ils avaient tout débloqué, le jeu était terminé, littéralement. Ils accédaient directement au générique de la fin, à la première connexion, ce qui a forcé Rocksteady à fermer complètement les serveurs. Et au moment où on tourne le podcast, les serveurs ne sont toujours pas réouverts. Et la question qu'Anthony posait sur les réseaux sociaux un peu plus tôt cette semaine, c'est avec le fait que Suicide Squad, ben, personne n'a eu de code avant le lancement, même pas les créateurs de contenu qui étaient fans de DC ou quoi que ce soit, même pas ceux qui pourraient... facilement dire du bien du jeu, n'ont pas reçu de code non plus. Est-ce que vous faites confiance aux studios et aux éditeurs qui prennent cette approche pour leur jeu, alors que ben, le jeu va sortir et aucune vidéo ni aucune critique n'aura été sortie? Je te laisse aller, mon cher Anto.
Oui, c'est rendu cher un jeu vidéo. Je regardais pour, une nouvelle sortie là, comme Yakuza, c'est 89$ plus taxes. On parle de 102 ou je pense même peut-être 100, c'est à peu près 102$, 103$ après taxes, je ne me trompe pas.
C'est beaucoup de choses. Ouais.
100 points, c'est quand même beaucoup de sous, c'est un investissement. Il y a pas, les gens ont de moins en moins de dollars pour les loisirs, surtout en période d'inflation comme en ce moment. Est-ce que là, les gens, c'est une pratique commune de faire des précommandes, tu veux tes bonus de précommande, là, en plus, tu as cette édition-là de luxe que tu peux jouer 72 heures à l'avance. Fait que est-ce qu'on veut prendre ce risque-là d'aller avancer nos sous? Je sais que pour les versions physiques, tu peux les retourner. Pour les versions numériques, il y a un peu plus de limitations. Est-ce que tu veux... Puis même la version physique, une fois qu'elle est ouverte, c'est plus difficile. Fait que est-ce que tu veux vraiment prendre ce risque-là ou est-ce que tu n'as aucune critique, tu n'as aucune idée de quoi? Puis en plus, tu as les rumeurs que les développeurs, le développement était plus difficile. Écoute, le dernier jeu là, que je me souviens là, qui a fait ça, c'était Doom Eternal, puis on pensait que ça allait être un flop. Finalement, ça a été un super bon jeu. Alors, c'est pas nécessairement garant de négatif, mais là, ça regarde pas très bien. On avait posé la question à nos auditeurs un peu, qu'est-ce que vous pensez de ça? Puis je trouvais ça super intéressant. On avait un commentaire de Simon Garipi qui disait que moi, si le jeu était 39,99, je pourrais me passer des tests. Je comprends, 39,99, c'est la moitié, même moins que la moitié.
Alors, rappelez-vous, il y a 10 ans quand les jeux étaient
moins mal. Oui, exact. Mais même là, non. Moi, je me souviens d'acheter mes jeux GameCube 69,99, Luigi's Mansion. Je me souviens d'avoir sorti mon argent. Là. Alors, c'est 39,99 pour un jeu qui est supposé être AAA, qui est en développement depuis très longtemps chez Rocksteady. Puis même, je sais que c'est pas le même jeu, il y avait un reset, mais Warner Brothers Games Montréal travaillait aussi sur un jeu Suicide Squad. Je ne sais pas s'il y a des assets qui ont été transférés ou quoi que ce soit. Fait que c'est... Qu'est-ce que vous en dites, les amis?
En fait, Je suis pas
100% d'accord avec le fait que, tu sais, comme...
T'as dit, c'est la
moitié du jeu, donc le risque est moindre. En fait, c'est pas comme ça que je le vois, puis c'est pas comme ça que j'ai changé mes habitudes de consommation par rapport aux précommandes de jeux, parce que j'en fais encore beaucoup. Mais par contre, je choisis qui je décide d'encourager, parce que c'est comme ça qu'il faut le voir à un certain niveau au niveau des précommandes. C'est-à-dire que t'encourages le studio par rapport à son développement et ce qu'il a fait par le passé, ce que tu veux qu'il fasse dans le futur. Tu sais, un jeu à 40$, habituellement, on va s'entendre, on parle d'un petit studio, là, on parle d'un studio indépendant qui va, qui n'a pas beaucoup de capacité de développement, bien, le fait que tu décides d'acheter leur jeu à plein prix, pour eux, ça représente beaucoup. Ça va vraiment les aider pour faire en sorte que, un, le jeu soit mis à jour si jamais il y a des mises à jour à fournir, mais aussi pour les projets qui vont venir dans le futur. Fait que ça vaut la peine à ce moment-là de le faire. La plus grande frustration pour les autres, on parle de jeux à 90$, ben c'est effectivement, est-ce que la qualité va être au rendez-vous, mais aussi, est-ce qu'on prend le consommateur à quelque part pour un imbécile parce que maintenant, les baisses de jeux viennent tellement vite. T'sais, qui c'est qui va payer un jeu 90$ sachant que le jeu va tomber 20$ de moins dans deux semaines Avatar? Mais c'est un exemple très, 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 très facile à pointer du doigt. Mais c'est rendu comme ça pour tous les jeux, surtout en plus les jeux qui viennent proches de sortir durant le temps des fêtes avec le Boxing Day puis le Vendredi Fou. Si tu sais que ton jeu va sortir en novembre, ben, il n'a jamais plein prix. Il va tomber en rabais durant cette période-là, donc ça ne vaut pas la peine.
C'est dommage parce qu'il y a
des jeux qui méritent sans doute qu'on investisse chaque dollar derrière, mais à un moment donné, c'est tes poches, là. Faut que tu parles avec tes sous, faut que tu parles avec ton budget puis te dire, ben écoutez, je n'accepte pas ce genre de pratique-là. Donc, vous aurez mon argent une fois que votre jeu, vous considérez qu'il vaudra moins sur le marché, puis je l'achèterai à ce moment-là. Mais je trouve que c'est la façon de voir les choses. Si par contre, tu aimes un studio, ben il n'y a rien qui encourage plus un studio que le payer plein prix. Si tu veux continuer à faire quelque chose de la sorte, ben c'est le meilleur moyen de le mentionner. Puis si jamais tu n'es pas d'accord, à l'inverse, si jamais tu n'es pas d'accord avec leur pratique, tu n'es pas d'accord avec ce qu'ils ont fait au niveau du développement de quelque chose, ben jette pas le jeu plein prix. Même s'il sort des bonnes critiques, ben jette-le pas plein prix. C'était contre ça, puis attends qu'il soit à rabais. Puis c'est là que ça leur fait le plus mal. C'est quand ça va dans le portefeuille.
Pour un jeu comme Suicide Squad, c'est un peu plus... touché, je dirais, parce que ça fait quoi? Ça fait 8-9 ans qu'ils ont fait Arkham Knight. Fait que ouais. Si t'aimes le studio, tu dis « Ah, écoute, ils ont fait Arkham Knight, ça va être bon », mais comme avec le roulement dans l'industrie d'employés, il y a-tu vraiment du monde? Ça doit se compter sur les mains, là, le nombre de gens qui sont restés chez Rocksteady tout ce temps-là, là, après presque 8-9 ans d'attente là, entre deux jeux. Fait que eux, ils roulent beaucoup sur leur réputation, mais probablement que ça a beaucoup changé à l'interne. Fait que,
de toute façon, je veux dire,
vas-y.
Le jeu, je comprends pas que même à l'interne, peu importe, maintenant j'ai le droit d'en parler parce qu'ils ont finalement enlevé le NDA sur les alphas tellement qu'il y avait du bashing sur le jeu était OK. Dans le sens que l'expérience est OK. Selon moi, ce ne sera pas un excellent jeu. Ce ne sera pas non plus une catastrophe ambulante. Mais il y a beaucoup de red flags qui sont arrivés. Puis je ne comprends pas que chez Warner, chez Rocksteady, il n'y a pas quelqu'un qui s'est levé à un moment donné et il a dit « Mais semble, ça fait beaucoup. » On parle ici d'un jeu entièrement multijoueur. Aucun mode offline de disponible d'ailleurs. Ça sera disponible plus tard à la sortie. Qui a pris 8 ans à développer. Qui a été reboot 2 fois. Et que c'était censé être un game as a service, et finalement, ça ne l'est pas. Mais semble, je sais pas, tu viens de cocher beaucoup de mauvais trucs là, pour le développement d'un jeu.
Un jeu qui était en alpha il y a un mois avant sa sortie, là,
exact.
C'est un méchant red flag.
Exact.
Puis tu disais, tu sais, l'année dernière, là, il y avait un premier screenshot du jeu qui avait été sorti où est-ce que ça présentait le jeu comme un méga game as a service. Ouais. Tout le monde était comme non, non, non. Puis tu sors quand même ça comme un jeu que tu es obligé d'être connecté en permanence. Genre, ça va pas, là.
On se rappelle provenant d'un studio qui a créé sa renommée pour des jeux solo, entièrement solo.
Oui, exact. Oui.
Il va suffire à ce moment-là qu'ils ferment leur serveur après 6 mois parce que le jeu ne marche pas. Tous ceux qui l'ont acheté pourront même plus y jouer.
C'est ça. Exact. On se rappellera de Marvel Avengers, hein, qu'aujourd'hui, les serveurs sont complètement fermés.
T'as même pas besoin d'aller aussi loin que Marvel Avengers. T'as juste besoin de parler de...
Outsiders? Outriders?
Pas Days Gone.
Last Day Before?
Last Day Before, écoute.
Juste à parler de ce jeu-là.
The Day Before, ça, non?
The Day Before, ouais, c'est ça.
Mais là, le jeu, c'est pas juste le jeu, là, c'est le studio aussi que...
des bandits, là, mais...
Ce que je veux dire par là, c'est comme aujourd'hui, au consommateur, tu peux plus en passer des petites vites.
Non.
Tu peux plus faire comme genre, nous, on fait notre petite affaire de notre côté, puis on pense que ça va bien aller. Ben non, désolé, aujourd'hui, t'es redevable à n'importe qui décide d'investir ne serait-ce qu'un dollar envers ton produit. Il faut que tu donnes, il faut que tu aies un gage de qualité, puis il faut que tu donnes quelque chose qui vaut la peine, sinon les gens, ils seront pas derrière toi. Ils vont te croire, puis ils vont te supporter, mais au moment où ils voient qu'il y a de la bullshit, au moment où ils voient que ce que tu es en train de leur raconter, c'est rien, là, puis c'est juste la bouillie pour les chats,
la réputation,
elle va se détruire dans le temps de le dire, puis honnêtement, j'ai de la misère à voir comment Rocksteady va réussir à survivre à ça, parce que c'est énorme, là. C'est énorme ce qui leur arrive.
J'espère
quelque chose comme ça.
J'espère que Sony, Microsoft, puis Steam, ben Valve, vont comme prendre le temps de dire genre, ouais, on s'occupe de tous vos remboursements pour ceux qui ont acheté de luxe. Genre, qui calent ça d'avance. Là,
ben, que là, eux autres, ils perdent leurs 2 journées supplémentaires qu'ils ont payées.
Ouais, dans quelques heures, il va leur rester 48 heures au lieu de 72.
Voilà.
Ouais, c'est ça.
C'est sérieux, ça.
On verra bien ce qui va se passer. Je viens d'aller faire un tour sur le compte Twitter. Ils ont identifié le problème, mais ils ne l'ont toujours pas résolu. Voilà, c'était la follow.
C'est important de se garder informé lorsqu'on décide de, surtout dans l'univers du jeu vidéo, là, de se garder informé quand on décide de sortir des dollars de nos poches pour se procurer quelque chose. Parce que, tu sais, nous autres, on se connaît, là, on est 4 personnes qui dépensent énormément dans ce loisir-là. Donc, des fois, tu sais, oui, on peut avoir des...
On peut pardonner parce que,
on s'est trompé sur un titre qu'on pensait qu'elle allait être bon, mais la grande majorité des gens n'ont pas ce budget-là. Puis, de se tromper, là, quand tu sais que le jeu que tu vas te permettre, c'est ton jeu que tu peux te payer dans
l'année, par exemple. Peut-être même l'année, il y en a qui en achètent un ou deux.
Il y en a pour qui ça peut être pour l'année, tu sais, mais c'est correct quand tu sais que c'est un jeu, par exemple, NHL, tu sais que tu joues juste à un jeu de hockey pendant toute l'année. C'est comme, c'est ça que t'aimes, parfait, pas de problème. Mais tu sais, quand c'est un jeu qui a une fin en soi et qui dure un laps de temps avant que tu aies
dit le là,
ben tu sais,
c'est important de s'informer
puis de se garder à jour puis de s'assurer que tu sais ce qui est raconté.
Donc, là, clairement, dites-vous que c'est jamais normal un jeu qui donne pas trop à l'avance à de la presse, ça a déjà arrivé. Mais qui ne donne même pas de clé à des créateurs de contenu qui feront même pas de critiques, qui vont juste jouer au jeu. Dites-vous, c'est pas normal habituellement. Ça devrait vous sonner un red flag, là.
Puis ça, on parle de recevoir le jeu, on parle même pas des NDA. Nous, on reçoit des jeux de l'avance, puis quand le studio nous dit tu peux pas sortir ta critique avant le jour de la sortie du jeu, déjà, nous autres, on est comme ah ouais, ok. Mais on l'a eu d'avance, on a le temps d'y jouer. Tandis que là, rien partout, là, tu sais. Fait que c'est encore pire.
Je peux comprendre les gens d'avoir, tu sais, comme le commentaire de Simon, tu sais, les tests a rendu un certain prix, tu sais, je pourrais m'en passer, mais tu sais, en haut de ça.
Ouais. Ben, sous-entend, tu qui est prêt à prendre un risque, puis il prendra le risque, puis il y aura perdu 40$ au pire.
Quand c'est plus haut que ça, il faut quand même vérifier. Mais même à ça, aujourd'hui, là, on s'entend-tu que le trolling, là, il n'y en a pas rien qu'un peu. Là. Puis ça aussi, ça fait mal. Là. Ça fait partie du jeu. Puis ça aussi, des fois, il faut débroussailler et essayer de comprendre sur OK, je suis en train de lire une critique d'un jeu, puis comment ça se fait que lui, il donne un 4 sur 10, puis je m'en vais en lire une autre, puis lui, il donne un 9 sur 10. Puis là, on parle juste de sites qui se considèrent comme étant critiques de jeux. mais après ça, tu apprends que ah, celui qui a donné 4 sur 10, ben, il avait déjà fait une preview. Puis ah, Colin, il n'avait pas donné un assez bon commentaire sur le studio, sur le jeu que le studio considérait. Fait qu'il y a eu le code en retard, puis là, pour se venger, il a décidé de donner un 4 sur 10. Fait que finalement, ton 4 sur 10 vaut rien. Puis l'autre qui a donné 9 sur 10, ben, c'est parce que son chum travaille dans le studio, puis lui, il veut l'encourager, fait qu'il donne ouais. 9 sur 10. Et tu rajoutes à ça les commentaires des gens qui mettent tous des 0 sur 10 parce que finalement, la fille qui est.
Il n'est pas sorti sa bonne console.
Ouais. C'est une lesbienne, puis oh mon Dieu, moi, j'aime pas ça, les lesbiennes. Je veux dire, à un moment donné, là, ouais, c'est dur à faire. De s'y retrouver.
Ouais.
Puis. C'est pour ça que quand vous réussissez à trouver une bonne source d'information, que vous l'aimez, que vous aimez sa ligne directrice, ben tu sais, vous restez avec ça, puis à ce moment-là, vous savez que la vie, elle vaut quelque chose, puis évidemment, comme dans n'importe quoi dans la vie, tu prends toujours plus qu'une source, fait que tu trouves tes deux, trois bonnes sources sur lesquelles tu sais que tu peux te fier, puis habituellement, l'opinion, là, tu peux te la forger quand même par toi-même.
Exact, puis je pense que tu le rappelles très bien, pas viser une seule source. Ça se peut très bien viser 2, 3, 4, 5, 6 sources. Si vous n'avez pas le temps, il y a des agrédateurs, justement, Metacritic et compagnie, qui divisent la note des joueurs et la note des reviews à cause de ce genre de truc-là pour éviter au maximum les trolls. Ça peut vous aider dans vos recherches. Et oui, ça reste subjectif, mais comme on le dit, quand il y a beaucoup de drapeaux rouges qui se lèvent pour un jeu, peut-être attendre avant de dépenser votre budget que vous avez, même si vous aimez la licence, même si vous aimez le studio derrière, parce que dans tous les cas, vous allez être déçu peut-être.
Mais écoute, merci. C'est une bonne discussion. Je trouvais que c'était des sujets qui étaient importants d'aborder parce qu'on on a pas vraiment. On avait des jeux, beaucoup à parler, mais pas un jeu de la semaine spécifique. Merci d'avoir participé. Merci pour vos d'avoir participé aux discussions et de nous avoir partagé les jeux que vous avez joués dans les dernières semaines, les amis. Il y a des belles sorties qui s'en viennent dans les prochaines semaines. Alors, très hâte de vous de faire le prochain podcast dans deux semaines. Alors, c'est tout. C'est ce qui conclut l'épisode 78. Merci d'avoir été là avec nous. Et à la prochaine.
Salut!
Bye!